Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 12 juin 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence groupusculaire, bonsoir. Bonsoir Camille, bonsoir Emmanuel, bonsoir. Et puis pour le clan de la presse, ça sera tout parce que nous souhaitons un très prompt rétablissement à Claude Giraud qui est un peu fatigué. Nous regrettons l'absence de Jean Madiran qui a été retenu à la dernière minute par une obligation personnelle. Et nous nous étonnons de l'absence de Jean-Claude Varane, mais... Ah, peut-être que...
Il va peut-être se matérialiser.
Peut-être qu'il va se matérialiser brutalement dans l'encadrement de la porte. En tout cas, donc, ce soir, il y aura un mini-clan de la presse qui parlera de l'actualité, à la surprise générale. Et nous recevrons également Bernard Point-de-Sault, qui est président d'honneur, je crois, du syndicat des numismates, mais je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça s'appelle. C'est les gens qui vendent des médailles, des monnaies, des choses comme ça. J'ai complètement oublié le nom. C'est pas les collectionneurs, c'est ceux qui les vendent et qui viendra nous parler de l'actualité, d'une actualité qui concerne son activité professionnelle. Ensuite, vous aurez Cécile Yadem qui recevra un spécialiste des fleurs, ce qui est quand même assez stupéfiant. Ensuite, je recevrai Marc Filterman qui a écrit
très à la
livre.
Mode.
Comment ?
Très à la mode en ce moment, les fleurs.
Les fleurs, oui, mais moi, je vous signale ça fait 10 ou 12 ans qu'il y a une émission sur les fleurs.
Oui, je sais. Et pas fleurs de rhétorique, des vraies fleurs.
Et pas la fleur Raffarin.
Fleur en pote.
Parce que la fille de Jean-Pierre Raffarin s'appelle Fleur.
Ah, oui. Alors, en hommage à Anémone.
À Valérie Giscard d'Estaing. Et dont la femme et les filles ont des noms de fleurs. Valérie, et comme c'était un jeune militant giscardien, pour se faire bien voir, quand sa fille est née dans les années 70, il l'a appelée Fleur.
Bah, déjà, il a bien appelé son fils Jean-Marie. Je me demande bien pourquoi. Là.
J'ai même connu une marchande de journaux dont le chien s'appelait Jean-Marie officiellement. Et Adolphe, pour les intimes.
Il y a Charles de Gaulle qui a appelé son...
Elle officie à la porte Saint-Denis.
Il y a Charles de Gaulle qui a appelé son fils Il y a Charles de Gaulle qui a appelé son fils Philippe en hommage à Philippe Pétain, tout le monde le sait.
Il a toujours dit que
c'est intéressant.
Oui, les prénoms sont intéressants. Donc Marc Filterman, pour en revenir à lui, a écrit un livre qui s'appelle « Les armes de l'ombre » et qui parle notamment des armes par la manipulation du climat, les armes sismiques et les armes électromagnétiques. Et pour m'épauler dans cette conversation, j'ai demandé à François Plantet de venir et qui nous fera part des découvertes les plus... Non pas les plus récentes, parce que en réalité c'est pas des découvertes tellement récentes, c'est les plus cachées, les plus ignorées, les plus masquées en matière d'électromagnétisme sur la santé, des effets de l'électromagnétisme sur l'organisme et la santé.
Le bourrage de crâne, ça marche bien aussi.
Oui, mais c'est pas électromagnétique, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, nous recevrons Michel de Gégère et une jeune fille. Qui nous expliqueront ce qui va se passer à l'université d'été de Renaissance catholique et pourquoi, et la jeune fille dira pourquoi il faut que les jeunes viennent, parce qu'on rigole bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que étant donné les sujets évoqués...
Ils pratiquent le jeûne.
Oui, non, c'est pas des jeunes.
C'est le jeu.
C'est des vrais jeunes, là. Et on s'amuse beaucoup à l'université d'été de Renaissance catholique. Moi, j'y vais tous les ans et j'aime beaucoup cette ambiance. Et donc voilà, elle nous expliquera pourquoi elle y va. Mais pour commencer, nous recevons le père Argouache. Alors pourquoi pour commencer? Parce qu'il a beaucoup d'obligations et qu'il va être obligé de se sauver rapidement. Je sais que beaucoup d'auditeurs vont trouver curieux que je commence par un sujet qui est plutôt en général en fin d'émission. Mais je voulais absolument qu'il vienne pour nous dire d'une part, nous raconter d'une part comment ça s'est passé au village de Guermeur-le-Christ, c'est-à-dire le village auquel... à l'acquisition duquel beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie ont participé et qui a été inauguré tout récemment, et puis qu'il nous fasse un petit peu le point des activités et je ne vous le cacherai pas, des besoins de Riaumont, du village d'enfants de Riaumont. Alors, comme toujours, mon père, parce qu'on a sans arrêt de nouveaux auditeurs, je vais vous demander de nous expliquer brièvement, s'il vous plaît, ce qu'est le village d'enfants de Riaumont. Qui vous êtes, vous, et qui est votre congrégation? Et puis ensuite, nous parler du village du Guerveur.
Oui, bien sûr. Je suis content de revenir à Radio Courtoisie, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu au journal de Serge de Bekech, puisque je parlais, je crois, 4 lundis de suite au journal du commandant Guillaume, tant et si bien que quelqu'un m'a dit « Mais est-ce que vous reprenez le journal du commandant Guillaume ?» Je dis « Non, c'est pas moi qui vais reprendre le journal du commandant Guillaume. » Moi, je crois que c'était une farce qu'on m'a faite quand même. Je suis très content de revenir ici à ce journal. Riaumont, c'est d'abord évidemment le village breton, avec cette fête extraordinaire entre les deux tours, cette veillée au milieu des ruines de Guerveur-le-Christ, le grand village du Christ, où il y avait 1200 personnes, dont je pense 700 ou 800 jeunes. On avait mis des projecteurs de découpe derrière les ruines du 15e, 16e siècle. C'était très beau. Les enfants étaient en forme. Il y a eu des sketchs admirables. Il y avait un tiers de notre effectif d'enfants qui étaient couchés parce qu'il y avait un virus terrible et c'était resté au village. Et puis, cette veillée a été extraordinaire. Elle a été filmée entièrement par Michel Barski. Donc, on aura une cassette qui va bientôt paraître d'actualité de Riaumont. D'ailleurs, les dernières actualités de Riaumont depuis 3 ou 4 ans, parce qu'on a eu beaucoup d'événements, que ce soit avec la jeunesse et les sports, que ce soit avec l'État, que ce soit avec toutes les autorités, DAS, etc., police, criminels de Lille pour le décès de notre petit Romain. Et bon, le lendemain, grand messe, magnifique dans les bois, tout à fait comme en 1793, près d'un énorme arbre, c'était magnifique. Très belle messe.
Comme un dessin de Joubert.
Exactement, comme la messe vendéenne de Joubert, d'ailleurs, qui est un dessin de Pierre Joubert original qui a été fait pour le village de Riaumont. Et puis ensuite, bénédiction de nos terres, si je puis dire, 70 hectares. On n'est pas passé partout. On n'a pas été jusqu'au Scorff. Mais le père Alain Hockmiller, le prieur, est passé avec tout le staff de nos amis. Grâce à Radio Courtoisie, je pense, il y a eu 600 donateurs, ce qui nous a permis d'acheter ce village. Et vous-même, Serge, il y a quelques années, vous m'aviez parlé de vous retirer en Bretagne, de faire une sorte de réduit breton, etc. C'est toujours resté dans ma tête. Et au fond, on a réalisé ce rêve d'acheter un village breton pour nos scouts. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier tous les ennuis qu'on a eus avec Marie-Georges Buffet. On a eu beaucoup d'ennuis avec la jeunesse et les sports. Et hier, je voulais pas trop en parler, mais je vais quand même en parler. On était en procès contre Charlie Hebdo de 13h30 jusqu'à 19h le soir. Et bien sûr, j'étais attaqué pour mes textes, pour mes conférences. Mais c'est fou ce que nos ennemis peuvent avoir de renseignements sur nos activités. J'étais soufflé de ce travail d'espionnage qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de moyens même, logistiques et financiers.
Beaucoup de relations.
C'est surtout que ce n'est pas des taupes, c'est qu'il y a au moins une quarantaine de personnes au CNRS qui sont payées avec nos impôts à enquêter sur nous. C'est bien pas sûr. Un travail de taupe ni d'espionnage. Ils sont payés grâce à nos impôts pour enquêter sur nous.
D'accord, mais enfin, bon, il suffit d'aller à la Bibliothèque nationale pour avoir Citadelle de l'Espérance et pour avoir mes écrits. Il suffit d'aller à Chirin-Montreuil avec une caméra pour filmer. Bon, c'est vrai que Charlie Hebdo, hier, a fait profession en disant « Nous sommes fils de la Révolution, nous avons le droit de faire des dessins ignobles sur le pape. Nous ne sommes pas condamnés, et nous n'avons jamais été condamnés pour ça. C'est notre originalité, c'est notre spécialité. » Et bien sûr, quand on voit un moine de Riomont avec sa corde qui tire un petit gamin qui est pendu par terre, c'est donc tout à fait normal. Quand on voit un petit enfant de Riomont qui s'appelle Romain, qui est pendu, je vais le dire à la radio quand même, en érection, puisque on m'a dit sans arrêt que tous les pendus étaient en érection, sans arrêt on me le rappelle, donc c'est normal, hein. Et donc avec des petits scouts qui sont là, qui rient, qui se moquent de ce petit garçon qui est pendu, tout ça c'est normal. Quand on voit un scout avec un casque allemand qui avance au pas de loi, tout ça c'est normal. Moi qui me suis occupé du petit-fils du colonel Rémy, compagnon de la libération, héros de la résistance, évidemment, tout ça compte pas. Nous sommes des scouts fachos à la suite de Perros-Guirec. Tous les scouts de tradition sont des fachos.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de coalition avec les loges maçonniques, le Parti communiste, en l'occurrence la mère Buffet, et les flics maçons aussi d'ailleurs. Et puis au bout du compte, on voit nos petits libertaires de Charlie Hebdo qui font profession de détester et de mépriser tout ce qui est l'ordre, tout ce qui est la justice, tout ce qui est l'État, et qui là s'associe à ce qui est évidemment une manœuvre pour détruire le scoutisme de tradition.
Absolument.
C'est quand même extraordinaire, et c'est la vérité. Ces gens-là ne sont absolument jamais condamnés. Mieux que ça, d'ailleurs. Mmh. Moi, je me souviens, je les avais poursuivis parce qu'ils avaient traité mon père de crevure, ce qui est extraordinaire. Mon père est mort en 54 à Dien Bien Phu, et en 90, je ne sais pas, 94, 50 ans plus tard, ces ordures découvrent que mon père, écrivent que mon père était une crevure. Donc je me suis permis de leur faire un procès. Non seulement j'ai perdu ce procès, au motif que c'est mon père qui était insulté et non pas moi, et donc je n'avais rien à voir dans cette histoire, non seulement j'ai perdu le procès, mais j'ai été condamné à leur verser des dommages et intérêts, moi. Donc,
Serge, vous avez oublié les magistrades.
Bien sûr.
Dans l'énumération.
Je l'avais remarqué.
Les médias, non, c'est vrai, c'est un oubli. Je vais le corriger immédiatement. Il y a les médias pourris, la police pourrie, les loges pourries, les magistrats pourris, et le plus pourri de tous les journaux pourris, qui est Charlie Hebdo. Il faut bien reconnaître que personne de sain d'esprit ne peut ouvrir ce torche-feton.
Mais ils s'en glorifient et les magistrats ne condamnent pas.
Voilà.
Bon, je ne vais pas donner tous les détails du procès même si on perd, on ira sans doute en appel. Mais pour en revenir à votre père, nous avons fait donc le mémorial des scouts morts pour la France, puisque les scouts de France n'ont pas voulu faire ce mémorial. Tout le monde le sait, parce qu'ils avaient honte des scouts français morts en Indochine et en Algérie. À partir de 1964, au moment de la réforme, ils ont brûlé tous les livres du père Sevin, du père Doncoeur, la revue Le Chef, la revue Sainte-Géanne du père Doncoeur, qui était extraordinaire avec des articles de doctrine fabuleux. Ils ont brûlé, et là on a des témoignages écrits, les films des Jean Bourré, en particulier de Jean Bourré de 1947 à Jambeville. Et nous, qui depuis 30 ans dans toutes les petites librairies. Nous récupérons pour sauver ces livres. Nous avons fait un laboratoire du scoutisme qui est maintenant connu dans la France entière puisque les universitaires et les chercheurs viennent chez nous. Et on nous reproche encore d'avoir fait ce mémorial des scouts morts pour la France, mais pas pour le voler aux scouts de France, pour prier, pour faire des messes, pour faire des veillées de prière. Samedi prochain, il y aura une veillée patriotique et religieuse. Malheureusement, le commandant Guillaume ne sera pas là, mais il sera là le lendemain pour remettre le drapeau. C'est un grand moment. Ça va se passer à la basilique Notre-Dame de Lorette, donc dimanche prochain, à 12h30. Le commandant Guillaume, je dirais avec toutes ses médailles, le héros du film de Schoenderfer, va remettre le drapeau des scouts français, anciens combattants, morts pour la France. Ça sera un grand moment de la vie de Riomont. Et les scouts de France peuvent être jaloux, ils peuvent pester, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. On est fiers de ce grand moment de la vie de Riomont et on a l'impression, nous, que tous ces scouts qui sont au ciel nous regardent et qui sont heureux qu'on pense à eux. C'est tout. On n'est pas là pour capter le patrimoine, l'héritage des scouts de France, puisqu'ils l'ont rejeté, ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent? Ils racontent partout qu'on leur a volé leur héritage. Mais on est prêt à leur donner tous les noms des scouts français morts pour la France. Et s'ils font un mémorial, et je leur souhaite, et sûrement qu'il y a des scouts de France qui m'écoutent, parce que cette radio est écoutée de plus en plus, je leur dis, le jour où ils feront un mémorial des scouts morts pour la France, Riomont sera présent avec son étendard, et nous aurons donné tous les noms, parce que ces recherches durent, et reçoit des lettres de toute la France. Mais oui, mon grand-père, mon père est mort à Dien Bien Phu, comme votre père Serge, il est mort là-bas, il était scout, il a son nom au mémorial des scouts morts pour la France. Alors je voulais dire ça ce soir, bien sûr, et puis beaucoup de choses. D'abord parce que, bien sûr, chaque fois que je viens, c'est aussi l'affaire des curés. Les curés demandent toujours l'argent, on sait très bien qu'ils font toujours la quête. Quelquefois, même à Riomont, le dimanche, on me reproche de ne pas avoir fait la quête. Quand il y a des mariages, des enterrements, on oublie toujours la quête. Enfin, peu importe, pour continuer et terminer cette année, on a beaucoup demandé pour le village breton. Il nous manque 150 000 francs. Il manque 150 000 francs pour terminer cette année. Voilà, c'est tout. Les
gens, vous dépensez l'argent dans des villages bretons et puis après, vous n'avez plus d'argent pour nourrir ces pauvres enfants. Oui, il faudra leur faire bouffer des patates.
Si vous connaissiez le réseau d'amitié pour conduire la nourriture, combien les PDG des grandes surfaces nous envoient des camions, etc. Bon, de ce côté-là, ça va. Mais bon, il y a les impôts, c'est toujours pareil. On a quand même quelques salariés. Et puis, on a des travaux. Hein, on a un bâtiment entier qui est fermé. Pourquoi? Parce que la préfecture nous a demandé de le fermer parce qu'il nous faudrait pratiquement 1,5 million au niveau sécurité pour faire les portes anti-feu, etc., etc., etc.
Ça, il y a un gag d'ailleurs dans cette histoire, c'est que ce bâtiment, il a été construit d'une façon qui était parfaitement conforme aux règles de sécurité, puisque je crois que chaque chambre a une porte qui donne sur l'extérieur. Et maintenant, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Donc, il faudrait fermer les chambres.
Alors, c'est le bâtiment Godefroy de Bouillon. Vous avez raison. Les gens de la sécurité ont dit, non, vous êtes en avance. Ça sera dans 4-5 ans. Il y a des portes de sortie des deux côtés. Vous êtes en avance, donc il y a un problème. Vous n'êtes pas dans les règles. Au fond, il aurait fallu boucher les portes de sécurité qui étaient en avance sur notre temps. Enfin, bref, grâce à ça, on a pu conserver les lambris qui étaient dans les chambres, qui étaient magnifiques. On les a pas arrachés parce qu'on leur a prouvé que les enfants ne seraient jamais brûlés puisqu'on pouvait sortir de deux côtés à la fois, ce qui est très rare. Non, c'est l'autre bâtiment qui a été financé par l'État, qui a été vérifié par les pompiers, par la sécurité, etc., etc., etc. Et là, eh bien, oui, effectivement, il n'y a pas les portes anti-feu. Il faut faire des portes anti-feu. Puis alors, la fameuse alarme Antares, qui est une alarme électronique extraordinaire qui vaut, je vous dis pas, 800 000 francs. Donc, on n'a pas d'argent. On a mis un placard.
Vous avoir un chien, vous attachez un chien. Dès
mais alors, notre chien, Lancelot, malheureusement, c'est un Saint-Bernard, il est gentil, il est doux. Il est incapable de sauter sur les journalistes d'entrevue quand ils viennent avec une caméra cachée. Et évidemment, on aurait un berger allemand, on pourrait le montrer dans Charlie Hebdo et dans les caricatures, mais non, on n'a pas de berger allemand, Charlie Hebdo, non, pas encore.
Tant pis pour vous. Vous avez un berger des Pyrénées. Non, c'est pas un berger des Pyrénées.
C'est un Saint-Bernard. Ouais. Parce qu'on s'appelle le groupe Saint-Bernard, bah oui, le groupe scout. Et puis, moi, je rêvais toujours de mettre un petit tonneau de rhum pour les frères quand ils étaient fatigués, pour avoir un petit peu de jus. Mais on n'a jamais trouvé le collier qui était adapté au tonneau. Enfin bon.
Vous avez trouvé le rhum et le tonneau. Donc, Si on veut vous aider, et j'espère qu'on le voudra, il faut que vous trouviez assez rapidement 150 000 francs. C'est voilà. Pas énorme, parce que 150 000 francs, ça veut dire... en euros, ça fait quoi, ça? Qui est-ce qui peut me renseigner? 20 000 euros, non? C'est ça? Oui, ben, ça doit faire quelque chose comme 20 000 euros à peu près. 20 000 euros, c'est-à-dire s'il y a 1000 personnes qui envoient 20 euros, vous êtes sauvés. C'est quand même... on doit pouvoir trouver ça parmi les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui, c'est ça.
À quel endroit faut-il qu'ils envoient ces
sous? Alors, ça, c'est le compte Notre-Dame de Riemont. Surtout qu'ils n'envoient pas au village breton. Non. Bon, l'acheter, tout va bien, etc. C'est village d'enfants de Riemont, BP 28, 62 801 Liévin,
CEDEX. Non, mais plus lentement, parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais personne n'a rien compris. Hein.
Village d'enfants de Riemont, RIAUMONT, BP 28, 62 801 Liévin, CEDEX. Et puis, si vous faites ce geste, je suis sûr que le bon Dieu vous le rendra au centuple.
Oui, on merci. Dit toujours ça, mais moi, j'ai toujours pas vu le pognon. Hein.
Non, mais vous verrez peut-être qu'à la dernière seconde, vous aurez des légions d'anges qui seront là pour vous accueillir, mais vous ne saurez pas pourquoi.
Merci, mon père. À bientôt. Rentrez bien, ne vous perdez pas en route. Et puis, vous revenez nous voir quand
vous courage,
voulez.
Je tiens à vous dire
vous
que...
serez là le 30 juin, j'espère.
J'espère aussi. Bon. Je tiens à vous dire que Procès de Charlie Hebdo m'a reproché de parler à Radio Courtoisie. J'ai proposé d'écrire dans Charlie Hebdo ce qui m'a été refusé. Mais je suis prêt à parler à Skyrock. Merci.
Mon frère à tout. Enfin, mon père. Eh bien, je demandais au père s'il serait là le 30 juin, et il m'a dit oui. Et alors, pourquoi viendrait-il le 30 juin? Eh bien, vous allez le savoir, pas plus tard que tout de suite.
Dimanche 30 juin, fête de la courtoisie. Des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres de 10h à 19h. Compte tenu du succès grandissant de notre fête annuelle, afin qu'elle vous soit plus agréable, nous avons choisi un cadre beaucoup plus vaste. Dimanche 30 juin, pour la première fois, la fête de la courtoisie s'installera dans l'espace Champéret, porte de Champéret. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 25 euros pour la journée, buffet compris, avec bien entendu le vin de Radio Courtoisie. Entrée toujours gratuite pour les enfants accompagnant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Retenez, dimanche 30 juin, de 10h à 19h, fête de la courtoisie, espace Champéret, porte de Champéret, Paris 17e.
Alors, ce 30 juin, il y aura donc un stand du Libre Journal de Serge de Becket, c'est-à-dire moi-même en personne, avec beaucoup d'invités. Je vais essayer d'en citer quelques-uns, je vais très certainement en oublier, je vous présente mes excuses à l'avance. Il y aura Henri de Fersan qui sera là. Comme ça, les auditeurs et les lecteurs qui n'ont pas reçu son livre pourront venir lui tirer les oreilles en personne et prendre le livre. Il y aura également Philippe Gauthier qui sera là. Il y aura Philippe Gauthier, c'est l'auteur de la Toussaint Blanche.
Et de la germanophobie.
Et du racisme anti-allemand.
Voilà. Enfin, pour moi, ça reste la Toussaint Blanche parce que c'est quand même un livre mythique. Et il y aura également Pierre Jovanovitch, que j'avais reçu, qui avait écrit son fameux bouquin sur les anges, et qui vient de publier un autre livre sur Gabriel, l'archange Gabriel, qui est un livre énorme. C'est tout à fait incroyable d'être arrivé à faire un livre de, je sais pas, peut-être 400 ou 500 pages sur l'archange Gabriel. Non, c'est pas ça, je me trompe, je dis trop de pages. Non, parce que vous regardez d'un air dubitatif.
Non, mais on peut en faire 800. C'est pas de problème.
Ah oui, enfin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, documentation sur les appareils. Enfin, et ce bouquin est très étonnant. Il est passionnant et très étonnant. Il est un peu, il n'est pas strictement dans la ligne de Vatican. D'ailleurs, même pas de Vatican, hein, je dois le dire. Hein, c'est un peu spécial. Si vous êtes, un petit peu antignostique, comme disait l'autre, il faut mieux passer à côté parce que vous risquez d'être surpris. Il y aura également le père François Brune qui sera là et qui, lui, vient de faire un livre, alors qu'il est d'une rectitude absolue, sur la Vierge de Guadeloupe. Remarquable bouquin et tout à fait extraordinaire miracle, la Vierge de Guadeloupe. Qui y aura-t-il encore? Je dois dire que c'est à peu près tout ce que je vois pour l'instant. Je vais certainement me faire tirer les oreilles parce que j'en ai oublié plein. Mais ça fait rien, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc venez le 30 juin, on sera en famille, on s'amusera bien. Comme c'était prévu, comme Camille l'avait deviné, Jean-Claude Varane s'est brutalement matérialisé dans le bureau, sans détonation d'ailleurs. Comment allez-vous, mon cher Jean-Claude?
Très bien,
Varane, directeur de National
Hebdo. Je vous prie de m'excuser de ce petit retard.
Mais vous êtes tout excusé, cher.
Je crois que nous avons quand même beaucoup de choses à dire.
Eh ben ouais, on va pas perdre
nos auditeurs.
Alors, Camille, à vous l'honneur, vous êtes la dame ici, Camille Gallic, directrice de Rivarol. Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo, que vous venez d'entendre, et Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents, que vous avez entendu également. Je rappelle que Claude Giraud, directrice de Mondévie, et Jean Madiran, directeur de Présent, sont absents pour des raisons personnelles. Et nous les regrettons et nous souhaitons qu'ils soient là la prochaine fois. Donc, Marie-Camille, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l'actualité
Les deux premiers tours. Le premier tour des législatives et le premier tour du mondial de foot.
C'est le dernier tour, vous voulez dire. Le premier tour des législatives, quel est votre commentaire là? Parce qu'il y a quand même un phénomène.
Moi je me demande, c'est marqué par cette abstention quand même. 35% des électeurs, c'est absolument énorme. Et puis la déperdition du Front National. Mais je me demande si le Front National n'a pas été victime avant ce premier tour d'une intoxication.
Vous voulez dire le mouvement ou l'électorat ou...
Le mouvement et l'électorat.
Ils ont été intoxiqués.
Parce que la conjonction d'articles, notamment c'est Le Monde qui a donné l'impulsion dans le numéro qui avait précédé l'offensive sur la torture. Je crois que dans le numéro paraissant le samedi, Le Monde annonce que le front sera présent dans 300, que à cause du front, il y aura 300 triangulaires. Lundi suivant, il y a l'offensive sur la torture. L'histoire des 300, jusqu'à présent, on en était à 200. Le front présent dans 200 circonscriptions. Il y a une hausse qualitative énorme à 300. C'est immédiatement repris par les autres quotidiens et notamment je pense qu'il y a eu une intoxication de l'électorat dont on savait parfaitement malgré les sondages qu'il était hostile à la cohabitation et si on n'a pas essayé de manipuler les électeurs pour les faire voter de telle manière qu'ils évitent absolument le vote Front National et qu'ils s'abstiennent ou qu'ils votent pour la droite ou pour ceux qui venaient de la gauche pour le Parti Socialiste.
Moi je pense Emmanuel. Pas du tout. Je pense pas du tout parce que je pense que la grande majorité des électeurs du Front National ne lisent aucun journal, ce qu'on peut regretter. Je pense que le Monde a pratiquement aucune influence sur l'électorat du Front National, parce que les gens qui votent Front National ne lisent pas Le Monde.
Oui, mais ils écoutent la radio et regardent la télévision.
Oui, mais il n'y a pas eu une grande offensive. Moi, je me souviens très bien quand on avait fait des sondages à plusieurs reprises, quand on était à Minute, on avait demandé aux gens « qu'est-ce que vous lisez ?» comme autres journaux. Bon, et on avait vu qu'il y avait à peu près... parmi les gens qui nous répondaient, il y en avait à peu près 3 sur 100 qui lisaient Le Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
Et ils nous avaient répondu, mais excusez-nous, on a besoin d'être au courant. Et alors on s'était fait cette réflexion extraordinaire en se disant, mais il n'y a pas de problème, on peut repomper les articles du Monde, parce que nos lecteurs se rendront jamais compte. Je m'en souviens très bien. C'est à peine une exagération, mais moi ce que je pense, c'est que il n'y a pas eu d'offensive hystérique contre le Front National. D'ailleurs, on le voit bien, parce que l'affaire de la torture a été reprise pratiquement par personne et n'a pas joué. Le Monde était assez gêné, un peu embêté, parce que ça avait pas... moi, je crois plutôt au dégoût de la chose politique. C'est-à-dire que les gens ont été un peu... les gens qui avaient voté Front National au second tour de l'élection présidentielle ont été un peu sonnés du fait que Jean-Marie Le Pen n'avait pas fait un meilleur score, exactement comme le Parti Socialiste est sonné. Et je pense que l'augmentation des non-votants, on retrouve essentiellement, je pense, des bataillons du PS et des bataillons du Front National. D'ailleurs, bon, je sais qu'on fait jamais confiance aux sondages ici, etc., mais je pense que ça tient assez bien la route, et il y a... Je pense pas, parce qu'il n'y a pas eu une campagne de la GPU comme entre les deux tours des présidentielles.
Enfin, c'était très calme.
Il
n'y
a pas eu, il y a eu aucune manifestation, vous voyez, manipulée par les trotskistes lycéennes en disant le raz-de-marée le péniste au second tour des législatives.
En tout cas, dans les circonscriptions que j'ai regardées, je donne la parole après à Marie-Camille et puis à naturellement Jean-Claude. Dans les circonscriptions que j'ai regardées. Le Front perd pratiquement 50% de ses voix. Celle que j'ai regardée, je n'ai pas tout regardé bien sûr, mais il y a quand même une très forte déperdition. Alors, pourquoi des gens qui ont voté Le Pen au premier tour de la présidentielle et qui ont confirmé leur vote
pas
au deuxième
tour ? Vous avez plus d'un... Il y a entre 35 et 40% des gens qui ont voté Le Pen au premier tour qui n'ont pas voté pour lui au second tour. C'est des nouveaux. Au total, sur le premier tour et le second tour d'élection présidentielle, vous avez un Français sur quatre qui a voté Le Pen. C'est énorme.
Moi, je crois que je suis entièrement d'accord avec Ratier. Le phénomène des articles du Monde sur la torture n'a vraiment eu aucune conséquence sur le vote. Moi, je l'ai vu par moi-même, ayant fait un marché à Mantes-la-Jolie, où les gens s'en foutent éperdument. C'est quand même du passé. Bon, je crois que là-dessus, le Monde a essayé un coup. Le Monde n'arrête pas d'avoir comme cible principale le Front National. Ils ont joué, et il y a eu aussi cet appel « Attention à la cohabitation ». Et il est fort possible que de nos électeurs, ayant eu peur de la cohabitation, se sont peut-être portés sur la majorité de droite. Il y a quand même des choses intéressantes. Au premier tour, qui était un vote protestataire, il faut voir que si on ajoute les votes du Front National, l'abstention, le blanc, les chasseurs et tout, ça fait plus de 54% de gens qui se sont abstenus ou... Pardon ? Je
ne tape pas avec vous.
Ah, il faut pas que je... Non, je ne tape pas sur les électeurs. Non, moi je crois que si vous voulez, effectivement, c'est un petit peu décevant les résultats des législatives, mais je crois que la médiatisation qui a été faite contre le Front National, premier tour, deuxième tour, a eu les conséquences sur les législatives. Bon, il reste encore 37 cas où le Front National va être présent. Il y a à peu près sur ces 37, 8 circonscriptions que nous pouvons encore gagner. Golnisch, Marie-France Tirebois, Bompard, et ainsi de suite.
Mais je crois qu'on va continuer. Il n'y a pas de position de l'UMP.
Oui.
Sur les second tours, quand il y a
absolument.
Des gens du Front.
Mais on va continuer à nous diaboliser. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et je crois que ça va même aller plus loin. Moi, je me demande, mais vraiment, honnêtement, si nous sommes dans un pays démocratique où on nous redonne nos droits, ou alors il faut supprimer le Front National et mettre ses dirigeants en prison. Il faut aller jusqu'au bout de cette théorie.
Les 5 millions
de gens.
Moi, je voudrais rappeler que je ne suis pas militant ni membre du Front National, puisque tu parles de mettre en prison. Je prends des précautions parce que...
Non, mais les 5 millions qui reviennent aux législatives à peu près à 3 millions qui ont voté pour le Front National, il faut quand même les respecter.
En fait, c'est 6 millions.
Pardon ?
C'était 6 millions.
Bon, il faut mettre 6 millions de personnes en prison.
6 millions, oui.
Ça a déjà été fait, ça n'a pas réussi très très bien. Hein.
Enfin, non, moi je crois qu'il ne faut pas, désespérer et que nos auditeurs qui ont voté Front National aient confiance au Front National. Et puis bon, je vais envoyer une petite pique, mais enfin, étant quand même membre du bureau politique du Front National, je vais quand même me permettre de dire que l'opération de M. Maigret, cette fois-ci, elle est vraiment... les conséquences, c'est à lui-même d'en tirer. Puisque l'ensemble du mouvement du MNR n'a pas fait plus de 1%, ça va quand même lui coûter très cher, parce qu'il n'aura pas de remboursement, et lui-même a été battu à Vitrolles. Alors, il aurait
mais moi, je suis quand même un peu étonné qu'on s'en félicite. Il n'y a pas lieu de s'en féliciter.
Il ne m'en félicite pas, mais il aurait dû y penser. Il aurait dû y penser au moment où il a provoqué la scission du Front National.
Bah, d'après Martinez, c'est pas lui qui l'a provoqué. C'est Jean-Claude Martinez qui l'a orchestré. C'est lui-même qui l'a proclamé dans Paris Match.
Peu importe. Enfin, je crois qu'il vaut mieux le résultat.
Ça, il y a quand même.
Oui, ça, c'est un fait patent. Ça, je pense que pour en revenir au. Moi, je suis convaincu que cette histoire des 300 circonscriptions, et vous m'avez d'ailleurs donner raison, a effrayé certains électeurs qui ont eu peur qu'à la faveur de triangulaires ou quand le Front National se maintenait, ça fasse passer la gauche et qu'à nouveau le président de la République se retrouve avec une chambre hostile. Cela dit, c'est vrai que généralement les électeurs du Front National c'est un peu différent avec le MNR d'ailleurs, mais le lisent très très peu, parce que s'ils lisaient beaucoup, nous tirerions, comme le dit Emmanuel, à 6 millions d'exemplaires. Nous en sommes très loin. Cela dit, quand le Monde fait des affichettes sur les secrets du Front National, le Front National ici ou là, les gens l'achètent.
Moi, j'ai tiré 6 millions d'exemplaires. non, peut-être pas. Si, pratiquement. Je viens de sortir le numéro 267 et je tire à 3 000 exemplaires à chaque fois.
Oui,
non, 600 000.
Oui.
600 000. Donc, encore
2 millions.
Ça accumule.
Donc, dans 100 ans, j'aurais tiré 6 millions d'exemplaires. Alors, nos auditeurs ont une opinion sur.
Il y a une autre cause, je pense, que votre.
On va voir s'ils l'ont trouvée.
Oui.
Donc, c'est une auditrice qui dit c'est Jean-Marie Le Pen lui-même qui a annoncé les 300 triangulaires, il s'est sabordé comme à son habitude. Une auditrice, ne croyez-vous pas plutôt que cet échec électoral est dû au discours meurtrier de Chirac? Elle dit du président Chirac, mais moi j'ai du mal à dire ça. Un auditeur, c'est le chantage à une éventuelle cohabitation qui a fait que les gens n'ont pas voulu de triangulaire.
Les gens n'avaient marre de la gauche, c'est sûr.
Une auditrice, il y a beaucoup d'auditrices, hein. À mon avis, beaucoup de gens n'ont pas voté car on n'a pas arrêté de dire qu'il n'y aurait pas de députés, quel que soit le score compte tenu du mode de scrutin.
C'est vrai.
Un auditeur.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que la prise du pouvoir passera plus par les urnes maintenant.
Hein. Je continue avec les auditeurs. Là, il y en a un qui n'a pas bien compris de quoi on parlait puisqu'il dit c'est vrai, il y a longtemps que vous n'avez pas fait de la pub pour la secte gnostique. Vous étiez malade. Je vous le lis quand même puisque ça vient. Un auditeur nous dit. Monsieur Ratier peut-il nous parler de l'avion? Non, mais ça c'est qui n'est pas tombé sur le Pentagone, mais ça n'a vraiment rien à voir. Un auditeur nous dit.
Si, c'est Le Pen qui l'a fait tomber sur le Pentagone.
Sûr, mais
comme l'équipe de France de foot qui a perdu à cause de Le Pen.
Un auditeur nous dit, je suis MNR, j'ai voté Le Pen au deuxième tour des présidentielles, j'ai craint en législative en cas de triangulaire que Le Pen ne fasse voter socialiste, et je ne suis MNR que depuis 2 ans. Alors, c'est effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais. Ça a pu jouer, je pense, le réflexe anti-gauche a pu jouer chez certains électeurs qui, en entendant Jean-Marie Le Pen dire, comme il l'a fait plusieurs fois, que Chirac c'était Jospin en pire ou que, en tout cas, il n'y aurait pas de voix pour la majorité.
Il avait raison d'ailleurs que Chirac c'était Jospin en pire, puisque Jospin n'existe plus.
N'existe plus. La différence entre Jospin et Chirac, c'est qu'il y en a au moins.
Il y en a un qui a gardé sa capacité de nuisance
intacte. Mais peut-être que ça a joué effectivement moi je crois qu'il y a eu une conjonction de phénomènes
et
qui se sont produits.
Il y a une chose qui a incité énormément, je pense, d'électeurs à s'abstenir également, si j'en juge par le courrier que nous avons reçu, c'était évidemment les divisions de les doubles candidatures. Je pense que le MNR a fait en effet des scores tout à fait dérisoires, mais je crains que ces électeurs aient disparu dans la nature et ne se soient pas portés sur le front.
Moi, j'ai rencontré, alors j'ai parlé avec des gens, j'ai rencontré plusieurs militants MNR qui m'ont dit on va voter pour le FN parce que le MNR n'a aucune chance à cause de, on l'a vu au résultat des présidentielles, donc il faut voter utile dans ce domaine. Ça a été effectivement un réflexe. Et il y a eu un réflexe aussi qui m'a beaucoup étonné, oui, c'est que des gens qui sont Front National, qui sont des habitués des BBR, c'est-à-dire pas des militants, mais vraiment des adhérents dynamiques, qui ont voté Le Pen aux deux tours des présidentielles, là, aux législatives, ils ont voté pour la liste de Pasqua.
Oui, il y a eu une punition.
Alors, ça, c'est quand même assez bizarre.
Moi, je le vois d'après le courrier reçu. Il y avait un désir de punir.
Enfin, moi,
parce qu'il n'y avait pas eu de punir le à la fois l'appareil MNR et l'appareil FN qui n'avaient pas trouvé de modus vivendi. Ah, ouais.
Enfin, moi, je pense que c'est des phénomènes qui nous échappent très largement, tout ça.
C'est une constatation d'après le courrier reçu.
Le
péniste.
Mais tout ça, c'est la crème que vous avez déjà dans les gens qui vous
écrivent. C'est sûr.
Parce que vous avez des gens qui vous lisent. Et en plus, il faut être très motivé pour vous écrire. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart des gens qui ont pu voter, on le voit bien. Bon, on a beau dire ici que tous les sondages sont faux, etc. C'est complètement ridicule. Enfin, ça dépend lesquels. Mais quand on fait des études de l'électorat, on se rend bien compte que c'est un électorat. Bon, ils ont parlé de la fracture sociale, les gens d'en bas, etc. On se rend compte que c'est souvent, pas toujours, mais un électorat qui est peu diplômé, qui occupe des fonctions subalternes, des ouvriers, etc. Donc, ce sont les gens qui sont les moins insérés dans la vie sociale. Ce sont les gens qui ont le moins envie de voter. Ils votent, par exemple, une, deux fois pour Le Pen, et Le Pen est bloqué à 18. Eh bien, c'est des gens qui sont écœurés, ils vont pas voter aux législatives. Surtout quand ça se produit trois semaines après les présidentielles. Les gens sont plus du tout motivés. Et moi, j'ai vu... ça sert à rien de donner des exemples précis, mais je pense qu'il y a une espèce de découragement qui a atteint un certain nombre de gens. Et ce découragement a également atteint les socialistes.
Les vrais militants ne sont pas découragés, ils sont plutôt galvanisés par le retour à l'état groupusculaire, ce que je disais tout à l'heure.
Je crois qu'il y en a, en effet, c'est ce que j'écris dans l'éditorial de cette semaine, que de plus en plus sont convaincus que ça ne passera pas par les urnes.
Voilà, exactement.
Et ça donne raison également à toute la frange d'extrême droite qui, elle, est assez dynamique, mais qui considère le suffrage universel comme quelque chose
à
laquelle on ne se résout que vraiment en dernier recours. Et là, je pense que cette frange dynamique a également trouvé un motif ou un prétexte, si vous préférez, à s'abstenir.
Moi, ce que je crois, c'est qu'il va quand même se passer la chose suivante. D'abord, je ne crois pas que le camembert qui nous a été présenté avec 400 députés chiraciens sera vraiment le chiffre. Je pense que les socialistes vont arriver un peu à remonter et que l'écart soit moins important.
C'est très probable. C'est d'ailleurs pour ça que cette campagne est faite sur toutes les radios et télévisions. Voilà. Comme tous les journalistes de la radio et de la télé sont peu ou prou trotskistes ou socialistes, ils jouent, en tout cas socialistes c'est certain, ils jouent la carte de la peur une fois de plus, enfin du totalitarisme inversé en disant « Oh là là, mais ça va être horrible parce que... »
Moi je pense que disait Marie Gallic, c'est qu'il va se passer maintenant un événement qui ne sera plus celui des événements des urnes, c'est que la gauche va se venger par les syndicats, et ils vont faire une action sur les syndicats. Il y est fort possible qu'il y ait des manifestations très rapidement dans les rues pour des réclamations, pour des choses.
Elles ont commencé
et ça sera peut-être là un quatrième tour.
Mais je vous ferai remarquer quand même que les syndicats n'existent plus en réalité.
Moi, j'y crois pas
les syndicats n'ont plus aucun effet. Tout ce qui se passe en ce moment en France, enfin depuis plusieurs années maintenant déjà, c'est pas les syndicats qui l'organisent, c'est les collectifs.
Et de toute façon, les syndicats sont dans la main du patronat.
Absolument.
Il suffit de voir la CFDT, il suffit de voir Force Ouvrière, etc.
Donc
ils marchent main dans la main, les cotisations syndicales sont payées par les entreprises.
Ils ont le pouvoir sur... ils peuvent bloquer des sociétés nationales, comme la SNCF, ou les PTT, ou des grands trucs comme ça. Mais un mouvement de la base dans les entreprises... Et même dans les grosses entreprises, j'ai pas l'impression que ce soit les syndicats qui puissent
plus,
Chirac
a fait des fleurs extraordinaires au Parti communiste en présentant contre un certain nombre de députés communistes qui risquent de repasser des véritables tocards. Exprès, ils n'ont pas investi des gens brillants, notamment par exemple contre Grémetz ou des gens comme ça, justement en espérant que le parti connaît. Et c'est la vieille relation très ambiguë entre communistes et chiraquiens et gaullistes, de manière à ce qu'il y ait quand même une espèce de parti communiste qu'ils achètent, puisqu'il faut être clair, ils achètent le parti communiste, ils espèrent de s'acheter une paix sociale en subventionnant l'humanité. On peut être sûr qu'il y aura encore des subventions pour l'humanité. Et puis,
ce qui va être rigolo, c'est quand ils vont être obligés de baisser la taille minimum du groupe à l'Assemblée nationale à 12 personnes.
Non, mais voilà, ça va sûrement se produire. Mais ce qui est très révélateur, justement, de ce que vient de dire Emmanuel, c'est l'attitude du RPR qui est en ballotage avec Robert U. Jean-Marie Le Pen a donné consigne de faire battre un certain nombre de candidats socialo-communistes, dont Robert U. Et immédiatement, le RPR Georges Motron, opposé à U, dit
que personne ne connaît, dit
le Front National est un ramassis de salauds, je ne veux pas de leur voix, etc. Enfin, faisant tout pour que le Front National dise ce type-là, ça suffit, il ne va pas continuer à nous cracher à la gueule.
Alors, il faut leur
pour
dire,
qu'il
donc,
s'abstienne
il faut
et
leur
pour
dire,
qu'on fasse passer Monsieur U, que Monsieur U, il faut sauver le soldat.
Alors, il faut
alors
dire
comme
d'une
s'il
façon
ne suffisait
claire.
Pas qu'on ait envoyé, que tout l'establishment politique est envoyé de l'argent à Monsieur U pour renflouer les caisses du Parti communiste, dont Bayrou, comme Léotard avait dans d'autres temps versé à SOS Racisme. On fait tout pour maintenir U en selle, si j'ose dire.
Où U se présente-t-il?
Dans le Val d'Oise, Argenteuil.
Il se présente dans le Val d'Oise.
Argenteuil.
Voilà. À défaut d'une tunique, on espère qu'il va se prendre une veste.
Tous les électeurs qui vont voter et qui vont avoir à choisir entre monsieur, comment vous dites, Montron?
Georges Montron.
Entre l'UMP, Georges Montron, et le communiste U,
oui.
Si vous voulez vraiment emmerder Montron, il faut voter pour lui. En plus, vous battrez U, ce qui sera quand même agréable de voir le patron du Parti communiste se retrouver dans la luzerne, et vous emmerderez Montron, qui sera élu grâce aux voix de la droite nationale. Alors, je vous en supplie, restez pas chez vous, militants de la droite nationale, c'est moi qui vous le demande. Hein. Si je vous demande de voter pour un chiraquien, c'est que certes d'autres, il y a de bonnes raisons. Donc, allez élire Montron. S'il y en a un seul qui est élu, que ce soit lui au moins, pour qu'on rigole, parce que visiblement, effectivement, ce CAV a été mis en place pour ne pas battre U, et sous la poussée de l'électorat qui croit encore que l'élection a un sens.
Et sur l'ordre formel de Chirac, il se saborde.
Il se saborde en disant...
Parce que c'est pas lui qui a envie de se faire harakiri tout seul. C'est sur l'ordre de messieurs Chirac et Juppé.
Le Pen a demandé à d'autres candidats qu'on veut fusiller en dehors de U. C'est Martine Aubry.
Fusillé avec un bulletin de vote. Ça n'est pas une balle.
Je pense que vous m'avez bien compris. Donc il s'agit dans la 5e du Nord, 5e circonscription du Nord, de Martine Aubry, de Yves Cochet dans le 11e arrondissement à Paris, de Noël Mamère dans la 3e circonscription de Gironde, et de Dominique Voynet dans le Jura. Je crois que en ce qui concerne Dominique Voynet, je crois qu'elle est très mal barrée, et qu'elle se fera éjecter, je pense, rapidement.
Il faut... Camille a eu tout à fait raison d'insister sur le fait que l'expression fusillée, ça veut dire avec un bulletin de vote, et c'est une expression figurée.
Oui. Pour...
Non, non, mais attends.
Non, non, mais il n'y en est jamais
je
assez.
Je te signale qu'un jour, j'ai dit dans une réunion de jeunes du FNJ, il faut tuer Chirac, il faut tuer son adversaire en politique, et en expliquant que...
avec les mots qui pourraient être des balles.
Que c'était avec les mots... et qu'il fallait surtout le tuer dans son esprit à soi, c'est-à-dire ne pas le considérer comme un type dangereux ou comme un type respectable, mais comme quelqu'un qu'il fallait battre. Et j'ai dit, par exemple, il faut tuer Chirac. C'était dans ce sens-là que je le disais. Depuis, tu peux regarder sur les sites internet, chaque fois que mon nom est cité, c'est l'homme qui voulait tuer Chirac. Donc, c'est, il faut quand même être bien bien précis dans ce cas-là, parce que les crapules...
Il va falloir fusiller.
Ouais, toi, tu vas devenir le mec qui voulait fusiller qui donc déjà
Aubry. Alors, je répète.
On est femmes en plus.
Elle rajoutera.
Ma mère Cochet. Aubry. Cochet, ma mère. Et
voilà. Moi, je trouve que c'est quand même drôle.
La liste est courte.
Tu parles dans le micro.
Parce qu'il il faudra rajouter.
Enfin, moi, je trouve que la liste est très courte.
Oui, moi aussi, je croyais en avoir entendu d'autres. J'en ai même ajouté d'autres dans l'édito proprio.
Laissons l'initiative aux électeurs, ils sauront bien ce qu'il faut faire. Sauf en ce qui, enfin, surtout en ce qui concerne Montron. Votez Montron. Contre U, votez Montron.
Non, parce que pour moi, les Verts sont pas les candidats les plus dangereux. Même s'ils sont élus à l'Assemblée.
Monsieur Mamère a joué un rôle décisif quand même au soir du 21 avril dans la mobilisation
qui a permis à la journaliste de TF1, je crois, de dire je suis au quartier général des Verts et ils viennent de décider d'organiser une manifestation spontanée.
Voilà.
Bon, alors, les auditeurs.
Cette mobilisation citoyenne qui n'aura pas d'ailleurs duré très longtemps et dont on aura vu le caractère artificiel.
Alors, une auditrice, on nous a tellement bassinés partout en nous disant que le FN n'aurait pas de députés, que les gens du FN et autres ont préféré rester chez eux. Aux législatives, je n'ai pas un auditeur, je n'ai pas voté, je suis pourtant un électeur habituel du Front, et c'était comme un troisième tour, aussi faussé dans les urnes que le second tour. Je parle en connaissance de cause et d'autres votants sont comme moi. Oui, on a beaucoup dit d'ailleurs qu'il y avait eu
pense que c'est une fine analyse.
Qu'il y avait eu des fraudes. Il y aura une question pour Emmanuel là-dessus. Le parti de Chirac, l'UMP, correspond pratiquement au mot allemand Lump, qui veut dire gredin ou vaurien. C'est révélateur d'un système Chirac. Ah oui, l'UMP, Lump, c'est vrai. Hein.
Et en thaïlandais, c'est bien pire.
Ah bon?
Non, mais c'est une blague.
Monsieur Le Pen devrait appeler les électeurs à ne pas voter au deuxième tour puisque nous sommes rejetés par tous. C'est un auditeur, une auditrice qui n'a pas voulu d'accord entre le MNR et le FN. C'est bien Monsieur Le Pen. S'il n'avait pas mis un FN contre Maigret, celui-ci aurait pu être élu. Un auditeur.
Je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs, mais enfin.
Il y en avait un contre Bompard, par exemple.
Oui.
Je suis allé voter pour le FN afin qu'il touche ses 11 francs par électeur. Sinon, bien que votant pour le FN depuis 20 ans, je serais resté chez moi, sachant que les élections législatives ne changent rien, et je connais beaucoup de personnes dans mon cas. Dans beaucoup de circonscriptions, nous dit un auditeur, il n'y avait pas toujours des gens de qualité intellectuelle présentés par, alors il dit le FN, je suis désolé, en général, les candidats, je pense, enfin les partis en général présentent.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette
super vedette.
Parce que c'est pas parce que on se rend compte que les endroits où le FN ou le MNR, par exemple, a beaucoup travaillé le terrain, par exemple le MNR, bon, qui était plus, qui avait des gens parfois, enfin qui ont été très activistes sur le terrain, font des tout petits scores. Et je pense que la quasi-totalité des électeurs ignorent totalement ce que fait le candidat ou, par exemple, les députés qu'ils élisent. Ils les connaissent absolument pas. Et la seule chose dont ils disposent, c'est d'un tract électoral. Là, on se rend compte que c'est pas parce qu'on colle des affiches ou qu'on distribue des tracts qu'on augmente ses scores. Je dis bien en législative. Hein. C'est différent pour les municipales. Mais il y a beaucoup d'endroits où le FN avait travaillé, où le MN a travaillé, où ils font des mauvais scores. Quand on pense, par exemple, à Barillet qui fait 3% à Gardanne, alors qu'il avait fait 40%.
Galou qui fait 4%.
Bon, donc c'est des gens qui travaillent dans la circonscription.
Mais il n'avait jamais eu, c'est le cas de Barillet et Meilleur, parce que le Gallou n'avait jamais fait de score extraordinaire. Ça tient à la région où ils sont présentés.
Bon, par exemple, on prend Bourris qui travaille
sur la circonscription. Mais Bourris qui avait fait 23%, qui retombe à 3%. Voilà. Donc
le travail de terrain, même si on met des crétins, c'est pas grave, mais de toute façon, tous les partis font ça. Il ne faut pas croire que, moi j'en ai assez qu'on soit en permanence en train de dire que les gens du Front National, les candidats sont bêtes. Vous qui fréquentez la classe politique, Camille, depuis un peu plus de 20 ans, il faut quand même que les auditeurs comprennent que c'est très rare qu'on rencontre un député intelligent ou de qualité qui soit de gauche ou de droite. Oui. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement brillants députés, mais la plupart sont des gens extrêmement médiocres.
Le phénomène de la parité. Voilà.
Oui. Et le Front National s'est bien comporté.
Oui, mais enfin, vraiment, j'ai trouvé l'argument de Le Pen assez bizarre, parce que dire on a respecté la parité, ça nous a desservi. Je vois vraiment pas pourquoi.
C'est parce que
pourquoi les femmes sont moins qualifiées que les hommes, ou sont moins ou motivantes que les hommes.
C'est dans le cadre.
C'est difficile de trouver une femme.
Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Je pense que Jean-Marie Le Pen aurait une formule assez rapide, mais ce qui est vrai, c'est d'ailleurs l'UMP l'a expliqué. Ils ont préféré présenter souvent des députés sortants ou des gens qui avaient une notoriété locale importante, des maires, des conseillers généraux, des gens comme ça, déjà qui avaient une certaine étoffe, et ça peut jouer quand même pour être élu député, et donc ils ont privilégié des gens qui avaient une grande notoriété, et comme il se trouve que depuis fort longtemps, il y avait quand même une sous-représentation féminine, on prend plus de risques souvent en poussant une femme pour des partis comme ça qu'en présentant un homme qui est déjà aguerri et qui a des... Bon, et c'est vrai que le Front National a été le parti qui a le plus respecté cette norme.
Alors, je vais continuer à donner la parole aux auditeurs, mais je signale que, étant donné que Jean Madiran et Claude Giraud ne sont pas là, je me suis permis de faire entrer, avant la fin du clan de la presse, Bernard Pointe-de-Sault, qui n'est pas membre du clan de la presse pour l'excellente raison qu'il n'est pas directeur de journal, mais qui est vice-président du syndicat. Alors, j'arrive pas à retrouver le... Non, pas vice-président, président d'honneur du syndicat.
Voilà, j'ai été une dizaine de fois élu président du syndicat des experts numismates et numismates professionnels, et en suis actuellement le seul président honoraire.
Et alors c'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a des choses très intéressantes à dire sur certains aspects de la réalité légale, on pourrait dire, enfin de la législation en matière dans le domaine qui l'intéresse. Et ça peut paraître bizarre de traiter ce sujet, qui est quand même un sujet assez corporatif, mais moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que c'est une illustration absolument parfaite du fonctionnement totalement échevelé et idiot de l'administration en France. Alors, tout à l'heure, je donnerai la parole à Bernard Pointe-de-Sault, j'expliquais pourquoi il est entré. Alors, je continue à donner la parole aux auditeurs. Pour moi, la magistrale erreur de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir dit qu'il supprimerait l'impôt sur le revenu. C'est possible techniquement, mais incompréhensible pour la masse de l'électorat populaire, parce que cela semble favoriser les petits nantis. Tu as une opinion là-dessus?
Enfin, l'impôt sur le revenu a été créé en 1918 et il a été appliqué à partir de 1921. Oui. Les gens s'en passaient fort bien avant.
C'est ce que dit notre auditeur.
De toute façon, les impôts...
C'est possible techniquement, mais c'est vrai que ça...
L'impôt sur le revenu et pas l'impôt...
Pour les gens qui ne le payent pas, ça les impressionne pas.
Mais l'impôt sur le revenu, mais même pour les grosses fortunes, pour les gros revenus, c'est pas l'impôt sur le revenu qui est le plus important, c'est la CSG et les taxes annexes.
Absolument.
Alors, il y a un auditeur qui explique quelque chose. Moi, je ne suis pas éloigné de penser ça aussi. Il dit que de nombreux MNR ont voté utile en votant pour le Front National et que de nombreux électeurs du Front National ont pensé qu'ils voteraient utile en donnant leur suffrage à la droite classique. Ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ce que me racontait un ami qui vit en Afrique. Il me dit, vous ne vous rendez pas compte que l'État en France accepte que les Africains viennent, les Africains qui viennent en France viennent des grandes villes. Ils viennent par exemple de Dakar. Et alors les Africains de Dakar arrivent en France. À ce moment-là, il y a un trou dans Dakar. Et c'est les Africains de Foundiougne ou de Kaolack qui viennent à Dakar. Et à ce moment-là, il y a de la place dans Kaolack. Donc les habitants de Foundiougne, qui est beaucoup plus petit que Kaolack, vont à Kaolack. Et les habitants de la Brousse vont à Foundiougne. Et comme ça, il y a une espèce de système d'aspiration des masses migrantes.
Et quand il n'y a pas d'habitants de Foundiougne, il y a des immigrés clandestins
qui viennent
d'à côté.
Voilà, du Mali ou des choses comme ça.
Et c'est comme ça qu'on retrouve avec des bidonvilles en France.
Et c'est ça. Alors donc là...
J'ai expliqué ça il y a assez longtemps déjà.
La comparaison entre le MNR et les habitants de Kaolack ne doit pas être prise en mauvaise part. Pas plus que la comparaison des militants FN avec les habitants de Dakar. Je veux dire, c'est des mouvements, des grands mouvements de masse comme ça. Enfin, en l'occurrence, c'est pas vraiment un mouvement de masse. Est-ce que M. Le Pen aurait souhaité à un moment donné la cohabitation? Une personne l'aurait entendu dire sur une radio périphérique qu'il préférait la cohabitation. Moi, j'ai pas entendu, vous avez entendu
non.
ça
non. Non. Non, mais
c'est toujours...
il est un fait que si on raisonne politiquement pour le Front National, la cohabitation avait quand même un avantage. Elle mettait M. Chirac en difficulté. Il aurait été obligé soit de démissionner, ou soit de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là, je crois, qu'il faut comprendre la question. Effectivement, pour le Front National, la cohabitation était une solution qui lui permettait certainement de revenir en premier plan.
Non, mais remarquez, Chirac peut très bien décider la dissolution dans 2 ans.
Alors, pour faire plaisir au nouveau gouvernement, on pourrait suggérer, nous dit un auditeur, de supprimer les droits civiques des membres ou des électeurs du Front National, à condition de les exclure également des rôles des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'accord?
Oui, naturellement.
Bon, oui.
Scandaleux.
Mon fils et moi avons voté Front National au premier tour uniquement pour protester. Au deuxième tour, nous avons voté, comme toujours, pour Chirac. Voilà. C'est un exemple des comportements qui... C'est un exemple qui explique certains chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens...
Oui, mais les Français sont des légitimistes qui s'ignorent.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous demandent de parler du football. On va le faire, bien entendu. Il existe au Front National des opportunistes comme dans tous les partis. Pour des élections locales, ces opportunistes portent tout naturellement sur les personnes bien implantées qui sont naturellement en grand nombre dans les grands partis traditionnels qui tiennent le pouvoir depuis longtemps. Oui, ça, c'est du clientélisme, ça s'appelle. Je partage l'avis de Jean-Claude Varane et Camille Gallic. Pardon, j'ai du mal à lire parce que c'est parfois écrit un peu. Car nous sommes souvent en Lorraine et on interroge les gens. Ils ont été frappés par la campagne d'entre les deux tours et nous ont avoué avoir eu un peu peur de voter Le Pen. Voilà. Les gens qui ne votent pas sont des crétins, de gauche comme de droite. Tout individu conséquent devrait voter. Ça, c'est un démocrate qui parle. Il serait intéressant pour les Français nationaux que FN et MNR oublient leur querelle. On se fiche de savoir qui a raison ou qui a tort. Ce qu'on demande, c'est le succès de nos idées. Une auditrice, ce ne sont sûrement pas les militants du Front National qui ont voté pour l'UMP. Un auditeur pour Jean-Claude Varane, vous ne devriez pas profiter de votre passage sur Radio Courtoisie pour attiser les querelles de la droite nationale. N'oublions pas que nous avons été avec M. Bourgine, que vous avez été avec M. Bourgine, le supporter de Chirac. C'est quand même extraordinaire parce que tout à l'heure, j'en regardais le maître Henri Leclerc qui disait à propos de Besse. C'est scandaleux de juger, enfin pas c'est scandaleux, mais c'est inhumain de juger un homme 46 ans après les faits.
C'est magnifique. Hein,
j'espère que M. Papon a entendu ça de sa prison, ça a dû le rassurer quand même.
Mais non, mais ce qui est formidable, enfin bon, je ne vais pas prendre la défense de Jean-Claude qui peut se défendre lui-même, mais il a travaillé pour Raymond Bourgine comme moi j'ai travaillé, j'étais journaliste dans son entreprise.
Bah oui,
mais à ce moment-là, tous les employés de la mairie de Paris votent Chirac ou votent Tibéri, et tous les employés du Conseil général et tous les organismes sociaux des Hauts-de-Seine votent pour Pasqua, c'est ridicule.
Bien sûr.
C'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise qui est possédée par quelqu'un qui appartient à un parti politique qu'on est du même avis.
Je continue. Alors, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il y a des gens vraiment qui ont, je ne sais pas ce qu'ils ont dans les oreilles, mais il ferait bien de les nettoyer de temps en temps, ça leur mettrait des idées au clair. Un auditeur, si Maigret a été éliminé à Vitrolles, c'est bien à cause du candidat FN. Alors cessez tous ces arguments fallacieux. Mais ça, un auditeur, merci à Beketch pour son appel à la dissidence contre le Front National signé de la part de Jacques Chirac. Ça, c'est parce que j'ai appelé à voter Montron obéissant ainsi d'ailleurs aux directives du président Le Pen qui a dit il faut battre U. Donc je dis surtout faites-le. Je m'adresse à mes amis du MNR aussi. Faites-le. À mes
amis le MNR a appelé à voter pour les candidats de droite.
Donc, voilà. Donc bon. Alors faites-le. Donc,
en plus vous étiez d'accord pour une fois avec le FN et le MNR.
Avec le FN, le MNR et avec Chirac. Non, on peut pas rêver mieux quand même.
C'est parfait.
C'est parfait, non? Bon, et peut-être même avec beaucoup de communistes en plus.
Pour une fois, il était œcuménique.
Qui s'en voudrait bien que U foute le camp une fois pour toutes. Alors, définition de l'UMP, union pour la magouille présidentielle. Tuer Chirac n'est pas un crime, c'est un avortement à titre rétroactif. Bon, ça c'est... Mais Ketch a raison, c'est si simple, il faut que les électeurs Front National votent pour le candidat de droite le mieux placé. J'ai jamais dit ça. Car dans un premier temps, l'essentiel est de botter le cul aux socialo-communistes.
Ça, c'est quand même intéressant.
C'est une interprétation, tu vois. Voilà.
Elle parle dans le micro.
Tu as une interprétation.
Oui, parce que... extensive, voilà. Monsieur Cochet se présente dans le 14e arrondissement, 11e circonscription, et non pas dans le 11e arrondissement. Monsieur, je sais pas qui a dit ça, mais voilà.
Dans le 11e, c'était le pauvre Sarr qui a été laminé.
Voilà, tout ce que j'ai comme...
Pour Monsieur Cochet, j'ai dit le 11e arrondissement, oui, je me suis trompé. Effectivement, l'auditeur a raison, c'est la 11e circonscription.
Bon, il faudrait quand même peut-être parler de ce qui est le plus important quand même.
Alors, le match de football, c'est ça dont vous voulez parler?
Oui, l'implication de Le Pen dans cette affaire qui risque de faire chuter l'économie française.
Je vous laisse la parole.
Bon. Alors, on en a parlé plusieurs fois, enfin, c'est absolument hallucinant. Il y a plusieurs journaux, notamment Libération, qui ont développé cette thèse après le...
Et l'éditorial du Monde.
Oui, après le premier match France-Sénégal, dans lequel ils ont expliqué que l'équipe de France ne pouvait pas être au mieux de sa forme et se sentir bien et vouloir vaincre pour la France, puisque... ils étaient choqués psychologiquement, et comme c'était une équipe multicolore, ils étaient choqués parce que il y avait eu le 21 avril. Et que donc Jean-Marie Le Pen avait
déstabilisé
le moral de l'équipe de France, et que donc il était le premier responsable de la défaite de la France face au Sénégal. Non. Mais c'est absolument sérieux.
Non, mais c'est pas du tout.
Il y a eu des
erreurs, mais on se fait du monde.
On pourrait dire aussi bien qu'ils auraient pu gagner à cause du 5 mai. Évidemment. Bon, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a encore, notamment Libération, ils sont extrêmement forts pour ce genre de choses. Ils ont continué à nous le ressortir, on l'a encore ressorti à la suite du match d'hier, je crois.
Oui, mais le Danemark. Oui, c'est le dernier match qu'il y a eu hier où le Danemark a marqué deux buts, qui a entièrement éliminé l'équipe de France, mais qui vient de rentrer aujourd'hui un peu.
Ce qui est formidable, c'est que
ça fait tomber l'action de TF1, donc
ça peut faire chuter la bourse, donc ça va saper le moral des Français qui vont pas acheter pendant les soldes, et donc théoriquement, parce que si on poursuit, l'économie française va s'écrouler en septembre.
On peut aller très loin, tout est à faute de
Le
Pen. Voilà.
Et donc Jean-Marie Le Pen aura obtenu...
Je suis content que tu le reconnaisses enfin.
Et Jean-Marie Le Pen aura obtenu ce qu'il voulait, c'est qu'en fait la France va être déstabilisée, elle va se mettre en grève en septembre. Mais il y a eu des journalistes, il y a eu l'éditorialiste du Monde, ça paraît être une blague,
du Monde,
mais c'est
vrai. Ça paraît surréaliste. J'ai pensé en lisant cet édito que je ne sais pas si c'est M. Colombani qui a accouché de ça, mais c'était totalement surréaliste. Mais en effet, c'était le...
Libération, on parle pratiquement tous les jours de ça.
Il y a quand même une chaîne de télévision dans cette affaire.
Moi, je voudrais quand même voter des félicitations à Rivarol, parce que dans le numéro de la semaine dernière, daté du 7 juin, et l'article avait été fait vers le 31 mai à peu près, après le premier match de l'équipe de France, et il y avait un intertitre, vive le Danemark, messieurs, en disant que le Danemark pourrait peut-être nous battre.
Mais c'est Bourbon, vous avez un expert en foot qui est Bourbon, moi, c'est lui qui a fait le papier. Je cacherai
notre...
Je connais un petit peu cet excellent garçon. Je suis absolument certain que c'est lui.
Je le garde sous le... Je ne veux sous pas dévoiler mes sources.
Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra s'abonner bientôt. Il faudrait que tous les auditeurs s'abonnent parce qu'ils auront les résultats du loto sportif à l'avance dans chaque numéro de Rivarol.
Non, mais y a,
on vous les passera.
Il y a la conséquence économique de cette affaire. Alors, vous allez avoir une chaîne de télévision qui va se ramasser une sacrée claque.
C'est bien
qui est la TF1.
Elle gagne tellement d'argent.
Enfin, on ne va pas nous faire pleurer sur le détonneur. Hein.
Non, pas du tout.
Sur Monsieur Lelay. Hein,
le porte-glaive. Non, mais il y a peut-être autre chose. Enfin,
il paraît que la fédération va économiser beaucoup de sous en rapatriant les joueurs et les dames des joueurs, puisque maintenant ils se faisaient accompagner pour le repos du guerrier.
Un auditeur nous dit à 18h, France Info a annoncé que les Bleus avaient dû s'éclipser discrètement par une porte dérobée en descendant d'avion à Roissy, car un comité pour éviter le comité d'accueil. Non, il y a quand même un truc.
Non, c'est pas vrai parce que le comité d'accueil qui était, ils en ont parlé toute la journée sur 20, le comité d'accueil était là pour les féliciter.
Ah bah ils ont pas.
Ils ont été débordés.
Ils avaient honte.
Ils avaient porté des tomates.
Mais pas du tout. Ils en ont parlé toute la journée. Ils avaient des banderoles. Ils ont interviewé des gens qui avaient pris leur journée complète avec, qui avaient mis les maillots pour accueillir en disant mais c'est pas grave, on vous aime.
C'est tellement marré.
Pénos, Zizou, etc.
Rappeler quelque chose. C'est la déclaration de Le Pen quand Zidane avait dit il faut pas voter pour l'autre, ou je ne sais pas ce qu'il avait tourné ça.
Oui, l'autre.
Et Le Pen, interrogé par un journaliste à la télé, avait répondu écoutez, ça, c'est des paroles verbales, ces gens-là, pour l'instant, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils disent, mais qu'ils perdent, et vous verrez qu'à ce moment-là, ils deviendront très très vite des parias et des moins que rien. Ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est maintenant. Il y a quelques temps, il fallait mobiliser 250 000 CRS pour les accueillir à l'aéroport et les faire défiler sur les Champs-Élysées au milieu des hurlements hystériques d'un million de personnes. Et là, ils disparaissent par la coulisse en rasant les murs de peur de prendre un coup de pied au cul. Je dois dire que moi, qui déjà n'aime pas les footballeurs, n'aime pas le football et n'aime pas ces footballeurs-là particulièrement pour diverses raisons, là, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur. On prend son bonheur où on le trouve. Hein. Et en l'occurrence, là, je l'ai trouvé.
Non, je pense que c'est une histoire très morale.
Oui. Je ne sais pas quelle a été votre réaction, Camille. Moi, j'étais étonné parce que j'ai pas beaucoup de relations...
Dans le football
Non. Avec mes abonnés, sauf au téléphone ou par Internet. Et j'ai été très surpris hier. J'ai reçu au moins une quarantaine de mails se félicitant.
Oui.
L'échec de la France.
Non, et pas de,
France. De l'équipe.
Non,
mais,
de l'équipe de France. L'équipe
hexagonale. Écoutez, avant même, hier matin, que je n'arrive au journal, il y avait des... Bon, les mails sûrement, mais des fax. Donc les gens avaient griffonné quelques mots dès que c'est tombé à 10h30 ou je ne sais pas quand c'est terminé cette que je n'avais pas voulu écouter de peur que ça ne porte malheur à l'équipe que je préférais.
Alors un auditeur nous rappelle quand même que le météorite géante qui a percuté le monde, la planète il y a 65 millions d'années, provoquant la disparition des dinosaures, est imputable à Jean-Marie Le Pen.
Ah mais j'en étais sûr. Hein.
Ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant.
C'est l'épouvantail.
Et un auditeur nous dit le représentant de présent est absent. Cocasse, non. En parlant de
oui.
Présent ne l'est pas pour une fois, c'est la première fois. Bien, je continue. Vous avez oublié Mme Guigou qui se présente à Bondy après avoir été battue à Avignon. Mais Bondy, ça lui ressemble mieux à Mme Guigou quand même, je trouve, non, qu'Avignon. Hein? Bon, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Une forêt.
La forêt.
Je suis le plus vieux ancien militant du FN à Argenteuil et je compte appliquer mon pacte républicain, c'est-à-dire que je ne voterai pas pour U, mais je voterai contre Motrombe. Alors c'est amitié à Jean-Claude Varane qui m'aura reconnu. Mais non, mais il va
voter blanc.
Oui, comme j'ai un ami qui m'a dit qu'il voterait avec comment a-t-il écrit ça, voix refusée, suffrage refusé. Voilà. Bien, alors sur le je voudrais revenir quand même au match de foot, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît plus important que les plaisanteries qu'on a faites, si vous me permettez, c'est le fait que toute l'argumentation qui a été échafaudée depuis maintenant 4 ans autour de Blanc Black Beurre, c'est-à-dire l'équipe qui gagnait parce que c'était une équipe métisse, se casse la gueule avec un bruit mat, parce qu'ils ont été battus en première partie par une équipe qui était uniquement constituée d'Africains noirs. Ils ont été battus en troisième partie par une équipe qui était exclusivement constituée de bosariens blonds aux yeux bleus. C'est scandaleux qu'on ait là de jouer cela. Et entre les deux, ils ont été bananés par une équipe d'Uruguayens qui est constituée à 100% de métis. Donc, blanc, noir, métis. Il leur a manqué que... Ils avaient été battus par la Corée, non? Avant.
Et par les Belges. Les Belges avaient un Zaïrois dans leur... Il n'y avait que des Belges.
Alors, je pense que si on les fait jouer contre une équipe d'Apache,
sans un but.
Eh bien, c'était notre surmanchade de la semaine dernière. Foot, l'homogénéité ethnique, ça paye.
Voilà. Il ne reste plus qu'à leur faire rencontrer une équipe de Sioux, ou d'Apache, ou de nez percé, et ils vont se faire, pour le coup, ridiculiser.
C'est pas bon pour portables et pour les supermarchés, et les voitures qui vendent.
Il paraît que Carrefour est très content, il paraît que même Adidas est très content. Je sais pas si vous avez entendu.
Ils avaient tous préparé des stratégies de rechange.
Oui, enfin, les affiches, ils ont pas encore changé.
Y compris la publicité d'Adidas, la publicité sonore d'Adidas sur les radios. Alors, ce qui est sur une musique totalement funèbre, une strophe du fameux poème de Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Oui. Si tu peux voir en un jour...
un très beau poème.
Très beau poème. Mais alors, en l'occurrence, c'est la célébration de la défaite. Et donc Adidas a remplacé sa publicité triomphaliste par cette espèce d'ode funèbre à l'équipe de France, à l'équipe hexagonale. Et tout ça, moi, me réjouit positivement pour, je l'ai dit,
C'est une des rares bonnes nouvelles, quand même.
Parce qu'il aurait été intéressant, si ça avait été avant les élections.
Qu'il n'y a plus d'habitants dans la brousse et à Fundyun, plus d'Africains dans la brousse.
Moi qui vous écoute sur Internet.
Non, pourriez-vous nous préciser la position géographique exacte de ces endroits bénis? Je vais y aller m'installer, ça me changera du 11e arrondissement. Alors, Fundyun, c'est au bord du fleuve Sinsaloum, à l'embouchure du fleuve Sinsaloum. Et la brousse, c'est un peu partout. Vous voyez où est le fleuve Sinsaloum, quand même? Le Sinsaloum, c'est le deuxième fleuve du Sénégal après le fleuve Sénégal.
Après le Sénégal.
Au sud, juste avant la frontière
de la Casamance.
Un peu avant la frontière de la Casamance. Voilà. Pour une fois que je sais quelque chose de géographique que Camille ne sait pas.
Non, j'avoue que la géographie de...
L'Afrique, c'est pas votre truc.
Non.
Ah, tiens, c'est curieux. Ça m'étonne beaucoup.
Donc, il n'y a plus de Rhodésie.
Ah oui, c'était... Voilà. Alors, je vous propose de... Parce que ça nous intéressera certainement ce que M. Poindesseau va nous expliquer. Je vous propose qu'on se tourne vers lui. Il vient de publier un magnifique catalogue, d'ailleurs, de pièces et monnaies, qui est vraiment... qui est un document de collection. Le catalogue lui-même. Je vous le recommande, ce catalogue, parce que ça vous permet de savoir à combien se monte votre fortune si vous avez des pièces et des monnaies dans la poche. Pas des pièces actuelles, mais si vous avez des statères ou des shekels d'avant, parce que maintenant, ça ne vaut plus rien.
Mais... Est-ce qu'il y a étymologiquement une parenté entre le shekel et le sicle?
Pareil.
Ça, oh, bon, pareil. Parce que je m'étais souvent demandé, et puisqu'un spécialiste est là...
Comme entre le thaler et le dollar.
Voilà.
Et quand on en a deux, ça donne un bicycle.
Alors, en ce moment, votre corporation, Monsieur Poindesseau, est secouée par un énorme scandale. Enfin, un énorme scandale. Un scandale rampant, en tout cas. Je crois même qu'il y a un de vos confrères, un bon confrère, qui est en prison.
Oui, qui a été en prison pendant deux mois.
Qui a été libéré, maintenant.
Il a gâché 6 mois de sa vie par un juge d'instruction qu'il a interrogé une seule fois.
Ouais, c'est bien. Non, mais ça, c'est intéressant.
Classique.
Je dois dire qu'entre parenthèses, quand on lit le bouquin du juge Alphen, vous l'avez lu, son livre?
Non.
Ah, il faut le lire, ça vous prendra à peu près un quart d'heure. Quand vous pensez qu'un type qui écrit comme ça, qui écrit ça, quand il était juge d'instruction, il tenait votre vie entre ses mains, c'est-à-dire qu'il pouvait vous envoyer en tôle pour...
C'est dramatique.
Des mois. Mais c'est terrifiant. Oh. C'est terrifiant. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est du vide dans du creux, c'est un morceau de néant. intellectuellement, il n'y a rien. Et quand on l'a vu se présenter aux élections, on a compris, effectivement.
Oui, ce que mais c'est. Vous savez, si j'avais compris avec les différents procès que j'ai eus et les juges d'instruction que j'ai eus. Ma religion était faite
à ce sujet. Oui, mais là, vous avez une bonne confirmation. C'est un peu l'apparition qui vous confirme dans votre foi, là, c'est clair. Le bouquin de... Je recommande la lecture. Ne l'achetez pas. Allez dans une bibliothèque publique.
Ah, est-ce que je peux dire un mot sur un livre qu'il ne faut en aucun cas acheter?
Oui.
Pour informer les lecteurs. C'est La nouvelle extrême droite de Christophe Bourseiller. Ah. Qui est son livre de 1991 avec 8 pages de préface. Il s'est dit, bon, ben, Le Pen est arrivé en deuxième position à la présidentielle, ça va faire vendre. Alors, le bouquin est réédité avec simplement 9 pages, ou 8 ou 9 pages de préface, mais tel que, c'est-à-dire qu'il y a des tas de journaux qui ont disparu. Il n'y a rien sur le divorce du Front National. On a l'impression que Marie-France Tirebois est toujours députée, qu'il y a des quantités de gens qui sont morts entre-temps, comme Pierre Potty, comme Jacques Robichet, qui sont toujours listés. Enfin, c'est une...
Ça s'appelle une arnaque, ça.
Non, mais surtout, la première édition était lamentable.
Alors, la première n'avait qu'un intérêt. Enfin, Emmanuel était encore plus sévère que moi. Moi, j'avais trouvé qu'elle était sans intérêt, absolument. Et la deuxième, que surtout les gens... parce que je crois que ça coûte dans les une vingtaine d'euros, une préface totalement inintéressante et torchée en un quart d'heure sur le coin d'un étal de boucher, c'est vraiment voici une mise en garde.
Bon, si vous me permettez, je reviens sur ces affaires de justice, puisque partons de là. Comme j'ai été pendant longtemps président du syndicat de ma profession, j'ai eu, moi aussi, au nom de ma profession, à m'occuper de certaines affaires. En liaison avec l'Office central de répression de vol des objets d'art, avec l'Office de la fausse monnaie, et ça a été d'abord l'affaire des vols à la monnaie de Paris, par Françoise Verne, haut fonctionnaire des finances, marié à un autre haut fonctionnaire des finances, les salaires, vous imaginez ce que ça pouvait être, et qui arrondissait ses fins de mois en volant les monnaies de son musée pour aller les revendre. Alors cette affaire n'a pas trop perturbé notre profession, parce que ça a été mené en liaison avec moi, avec l'Office central de répression de vol des objets d'art, et avec le doyen Sauré, doyen du juge d'instruction, qui a voulu que nous ne soyons pas perturbés. Un an après, naissait l'affaire du Trésor de Corse. L'affaire du Trésor de Corse, un haut fonctionnaire qui lance cette affaire, ministère de la Culture. Là, ça a été pas mené du tout de la même manière. On est venu perquisitionner dans mes bureaux en novembre 86, alors que j'étais président du syndicat de ma profession. J'étais magistrat en tant que président de la première chambre du Conseil des Prud'hommes de Paris en commerce. Et j'avais jamais mis les pieds en Corse. Bon, cette affaire, pour donner une idée par rapport à ce que vous disiez pour la justice, l'affaire a démarré en 86, le jugement en 95. L'absurdité de tout ça, je me ferai un plaisir de vous offrir mon catalogue tout à l'heure. Il y a une lettre au ministre de la Culture, M. Ayagon, dans laquelle je vous raconte tout ça. Maintenant, je reviens sur le problème concret dont nous parlions tout à l'heure. C'est vrai que j'ai décidé de me saisir, moi qui représentais ce que j'ai représenté dans ma profession, et qui le représente encore, et puis qui ai le courage de faire certaines choses, j'ai décidé de porter l'attaque par rapport à une décision d'un rond de cuir du ministère de la Culture qui tout d'un coup a décidé que le régime qui s'applique aux collections de monnaie au niveau de l'exportation ne s'appliquerait pas aux monnaies constituant ces collections. Ce qui veut dire qu'il y a une réglementation qui fait que si vous voulez exporter 12 monnaies d'or de 12 empereurs du Haut Empire romain, dont l'empereur Auguste, Néron, etc., jusqu'à 328 000 francs, c'est-à-dire 50 000 euros, aucune formalité. Catégorie 12 des biens culturels. Et voici qu'un fonctionnaire, un rond de cuir du ministère de la Culture, a dit oui, mais une monnaie, c'est pas une collection. Alors, toute monnaie de plus de 100 ans d'âge, c'est-à-dire la rondelle métallique du début du siècle là qui vaut rien, alors là, il fallait passer par plusieurs services administratifs pour demander des autorisations avec des photos, des imprimés, des... Vous savez, alors c'est ça qui vous intéresse, je pense, et qui intéresse nos auditeurs, c'est de comprendre qu'en France, dans ce monde que moi j'appelle socialocratique, c'est-à-dire socialocratie de droite ou de gauche, pareil.
Ouais, c'est exactement.
Eh bien, ce qui se trouve, vous avez des masses de gens qui ont la garantie de l'emploi aux frais des contribuables, et qui se permettent de créer des tracasseries inutiles, sécréter de la paperasserie, et ensuite, difficulté de la gérer, ce qui fait qu'ils sont tous noyés et qu'il faut toujours engager d'autres personnes.
Bernard, je voudrais qu'on revienne pour que ce soit bien bien clair cette histoire. Vous voulez dire que si j'exporte une collection de monnaie romaine en or, dont la valeur est de moins de 50 000 euros.
328 000 francs.
Je peux franchir la frontière, comme ça, avec ça dans
vous
ma poche.
Vous exportez officiellement.
Mais si je veux emporter dans ma poche une pièce de 20 sous 1900, on est en 1902, en 2002, donc elle a plus de 100 ans, il faut que je fasse des démarches auprès de l'administration des douanes.
Voilà, alors dans mon catalogue, dans la lettre à Yagon, c'est raconté en détail l'expérience d'un confrère qui est venu d'ailleurs nous demander de faire les photos pour 30 objets. Et 30 objets qu'il exportait, qu'il couvrait en fait jusqu'à la période du début du siècle. Et là, alors quand même, au cabinet des médailles, ils ont été embêtés et ils ont répondu sur 29 monnaies qui n'avaient pas besoin d'autorisation et une qui est très commune, c'est l'étude d'or de Charles VI, j'en ai vendu 50 exemplaires dans ma vie. Là, il fallait toutes les autorisations de service en service. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement parce que, toujours sans base légale, ils ont décidé que ça s'appliquerait à partir de 1500. Alors, ce qui veut dire que les rondelles métalliques, moi, quand j'étais officier dans les Aurès en Algérie, j'ai trouvé des petites monnaies en bronze à Kensla, les petites monnaies complètement pourries, il fallait les tremper dans le vinaigre pour voir ce que c'était. Ça ne vaut rien. Mais là, il faudrait officiellement, actuellement, demander, passer par un parcours du combattant qui représente un mois et demi pour exporter ça. Alors, c'est tellement con, excusez-moi de parler grossièrement, mais je veux dire à ce degré d'imbécilité, compte tenu de l'inertie administrative, j'ai commencé dans un premier temps par faire passer une première publicité dans un journal numismatique mensuel, dans lequel j'annonce et je demande si on a trop d'argent du contribuable pour utiliser les fonctionnaires à des tâches inutiles, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que le responsable des douanes était sidéré. On lui fait passer ça de catégorie 12 à catégorie 1, et lui, il est chargé de s'occuper d'armes à feu, d'objets fissiles, de drogue. Et tout d'un coup, on lui demande d'examiner des rondelles métalliques auxquelles il connaît rien. Et ça passe de service en service. Alors c'est ça qui m'a décidé, moi qui n'ai jamais hésité à mener certains combats, à publier, ce qu'un commerçant ne fait jamais, parce que je vais perdre une partie de ma clientèle, lettre ouverte à Yagon. Et tant que j'y étais, je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire une lettre ouverte à Chirac, que je vais d'ailleurs balancer en recommandé à la réception, avec une lettre d'accompagnement. J'ai envoyé aussi à Yagon, dont j'ai trouvé par chance l'adresse privée par le Ouizou, dans lequel je suis depuis 25 ans. Du coup, j'en ai envoyé aussi à Nicolas Sarkozy, qui est un homme intéressant, pour lui poser quelques questions dont on pourra parler tout à l'heure, parce qu'elles concernent directement votre émission. Et là, j'ai envoyé ça pour faire un bilan de la socialocratie, c'est-à-dire le bilan concret. Alors, je vous rends la parole. Vous me posez toutes les questions que vous voudrez ensuite.
Merci. Eh bien, écoutez, là, on arrive donc à la fin de la première partie de l'émission, ce qui veut dire à la fin du clan de la presse. Je vais demander, selon la tradition... D'abord, est-ce qu'il y a un sujet... Il y a bien sûr mille sujets...
Il y aurait mille autres sujets. Mais... Il y a ZDF, il y a la chute... nous avons un important article là-dessus, la chute du Nasdaq... aux États-Unis, qui est très importante et qui peut avoir des conséquences absolument énormes. Une déstabilisation. Enfin, là, il y a des 190 millions qui se sont envolés en deux semaines. Les entreprises américaines sont actuellement extrêmement menacées. Bon, ça, ce serait un sujet important. D'autant plus que ça entraîne la baisse spectaculaire des chutes des bourses européennes. Il y a quand même la montée du mécontentement en Allemagne contre l'euro, où l'Allemagne du Nord, réputée la plus européenne, la plus ouverte, la plus démocratique, la plus etc., voudrait qu'on en revienne aux marques. Alors donc il y avait... les campagnes de Le Pen sur l'euro n'étaient pas si grotesques que cela, puisque les gens à Hambourg, ou à Lübeck se posent la question. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Enfin, tout ça a été évoqué dans le dernier numéro de Rivarol, de toute manière. On peut trouver en kiosque vendredi. Et on peut nous réclamer un spécimen au 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris, 01 53 34 97 97, ou alors tout simplement rivarol.com. Les spécimens de Rivarol et des Cris de Paris sont gratuits.
Merci Camille. Jean-Claude, l'adresse de...
Jean-Claude Varane.
Et l'adresse de National Hebdo et le...
National Hebdo, 6 rue Vauguyon, 92210 Saint-Cloud. Je fais appel aux auditeurs et aux lecteurs de faire un système qui s'appelle le système de boule de neige, c'est-à-dire de m'envoyer une liste de gens, naturellement on respectera l'anonymat, à qui nous pourrions envoyer un spécimen de journal. Nous avons commencé cette opération qui rend très bien. Je précise bien que les noms qui nous seront donnés, votre nom à vous qui nous donnerez ces adresses, ne sera pas exploité.
Merci Jean-Claude.
Je me permets de dire une chose.
Dans une minute, parce que c'est la coupure technique, et je donnerai parole à Emmanuel et à Bernard. Alors, énormément d'appels, vraiment énormément d'appels, mais bon, je peux pas tous, je crois qu'on en a lu beaucoup, beaucoup, mais là, je suis obligé d'arrêter, parce que, d'abord, les sujets changent, et puis ensuite, les appels se répètent un petit peu. Mais je remercie les auditeurs d'avoir réagi aussi nombreux sur les sujets que nous avons traités. Emmanuel, je vous donne la parole avant de donner la parole à Cécilia pour rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, et où on peut trouver votre remarquabilissime, je ne crains pas d'employer le mot, lettre faits et documents, qui est un petit trésor de documentation pour les gens curieux et intéressés par les dessous de l'actualité.
Oui, donc la lettre que je publie s'appelle faits et documents, c'est boîte postale 254, boîte postale 254, 75 424, 75 424, Paris CEDEC 09. Alors le numéro qui sort cette semaine, je reviens très légèrement sur l'affaire de l'avion du Pentagone.
Oui,
j'aimerais qu'un jour on en parle avec Serge, parce qu'il y a un livre qui vient de sortir qui est une critique du livre de Thierry Messant qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, et dans laquelle il est écrit noir sur blanc, c'est le responsable de la principale lettre sur le consacré aux services secrets en France, et le directeur des services défense armée, services secrets du Point, qui en 5 pages me reconnaissent la paternité pour la France et donc pour le monde d'avoir été le premier à dire qu'il n'y avait jamais eu d'avion au Pentagone, et dans lequel ils disent que le synopsis du livre de Thierry Messant est entièrement recopié de la lettre que je fais par Internet et que j'ai publié ce synopsis 3 mois avant que son bouquin sorte. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, même si je passe pas chez Thierry Ardisson. Voilà. Et donc le gros dossier est les gens qui veulent s'abonner à mon site internet, la lettre est gratuite, qui n'a rien à voir avec la lettre papier. Ils font www.faits-document.com. Et le gros faits-document.com. Et le gros dossier va être en 2 fois. J'arrête la série des portraits sur le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. C'est un document exclusif que je publie, qui a été sur la crise de l'armée de terre et sur les changements qui interviennent de manière à à la faveur de la professionnalisation de l'armée, éviter tous les candidats patriotes et plutôt les remplacer au profit de gens qui ont une âme civile ou qui veulent faire de l'humanitaire. Et c'est un document j'ai les lettres des généraux en réponse, bien que ça soit un document clandestin. Et donc je le publierai en 2 fois, parce que c'est un document fondamental rédigé par des officiers supérieurs, notamment de Coëtquidan, et je pense que ça risque de faire un peu de bruit d'ici quelques temps. Merci.
Merci Emmanuel. Alors je rappelle encore une fois l'adresse pour que les auditeurs qui sont intéressés par ces deux lettres au moins puissent vous les commander.
Donc
c'est le moment de s'abonner. Quoi.
Donc c'est BP 254, 75 424, Paris CEDEC 09.
Merci, à très bientôt pour le clan de la presse du mois de juillet probablement. À vous Cécilia.
Bonsoir, je salue les auditeurs.
Et on va écouter votre petite musique générique.
Très bien, merci.
Thank you.
cette musiquette de bonne qualité, n'est-ce pas, cher docteur ?
Certainement.
Mais vous voulez vraiment pas parler dans le micro ? Vous avez une répulsion naturelle pour le caractère électromagnétique du micro.
Exact.
Cette musique était destinée à orchestrer ou à accompagner la valse des invités, puisque nous avons deux invités qui sont partis et deux qui sont entrés. Quatre qui sont entrés, d'ailleurs. Alors, ces quatre invités sont, d'une part, Marc Filterman, qui est l'auteur de Les Armes de l'Ombre, paru aux éditions Carnot, et le docteur Plantet, qui est venu comme expert, en quelque sorte, pour rendre notre entretien plus valide sur le plan scientifique. Et puis, Michel de Jugère, qui est l'organisateur, le grand maître des cérémonies de l'Université d'été de Renaissance catholique, et qui s'est fait accompagner d'une charmante demoiselle, Cécile. S'ils sont tous comme ça...
Oui, charmante.
Il va y avoir du monde. Là. Et donc, Cécile, qui va nous expliquer pourquoi la jeunesse se rend en masse à l'université d'été de Renaissance catholique, alors qu'elle sort des universités d'hiver qui sont quand même beaucoup moins rigolotes. Mais avant, donc, je me tourne vers Marc Filterman. Je n'oublie pas que Bernard Pointe-de-Sceau est parmi nous. Marc Filterman, vous avez donc écrit un livre très étonnant qui s'appelle « Les armes de l'ombre » et dans lequel vous nous expliquez que, en dehors des armes qui sont couramment utilisées et ostensiblement utilisées, les inventeurs d'engins de mort ont mis au point des armes qui permettent de déclencher des épidémies, de déclencher des tremblements de terre, de déclencher des mutations génétiques, de déclencher des catastrophes climatiques. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement d'un aspect de votre livre qui est fort intéressant et qui intéresse beaucoup, beaucoup de monde en ce moment, parce qu'on vit dans cet univers en permanence, dans cette ambiance. C'est la question des armes électromagnétiques. Quand je dis qu'on vit dans cette ambiance, on vit dans une ambiance qui est sans arrêt parcourue par des millions de phénomènes électromagnétiques, que ce soit les ondes de la télévision, de la radio, des téléphones portables, et bien d'autres, tous les appareils électriques, les appareils de cuisine, etc., qui eux aussi émettent des ondes électromagnétiques, et également, alors, semble-t-il, des armes, c'est-à-dire des moyens de modifier les états de conscience ou les états physiques ou les comportements ou de tuer, et qui sont ces moyens sont donc utilisés par les militaires. Alors d'abord, qui êtes-vous, Marc Filterman? Comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser à ce genre de sujet? Quel est votre domaine d'expertise, comme on dit maintenant?
Bien, bonsoir. Donc moi, j'avais commencé à m'intéresser au domaine du radar à partir de 1976. C'est à cette date-là que j'ai eu mon premier radar. Donc évidemment, pour un radio amateur, avec un radar à l'âge de 16 ans, ça faisait un peu bizarre. Donc j'avais déclaré le matériel, effectivement.
Ah, vous avez eu un radar, à vous ?
Oui, j'ai eu du matériel radar. Les photos sont d'ailleurs visibles sur mon site internet, où j'ai terminé en 86. Il y avait une dizaine de radars avec des puissances qui allaient jusqu'à 450 kW. Donc c'était pas du petit matériel, parce qu'il y avait un blocos rempli de matériel, et il y avait plusieurs tonnes de matériel. Le petit problème, c'est que je me suis rendu compte à la longue, déjà qu'il pouvait y avoir des interférences sur le matériel électronique, d'une part, et ensuite j'ai eu des problèmes de santé. Entre-temps, j'avais été embauché à l'armée de l'air de 80 à 85, et ma santé s'était détériorée de 83 à 85, j'ai plus les dates exactes. Et bon, à l'époque, on n'avait pas d'informations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune information sur le sujet des mes effets des micro-ondes sur la santé. Le syndrome des hyperfréquences, on ne connaissait pas. Et à cette époque-là, j'ai eu de sérieux problèmes de vue, et c'est un militaire qui m'avait orienté, qui m'avait dit, bon, attention, il y a certains risques avec certains matériels. À l'époque, je découvrais ça, j'étais pas du tout au courant. Moi, mon but, c'était de faire la recherche au niveau détection aérienne, de faire un dispositif de reconnaissance de cible pour la ligne. Et ensuite, donc, il a fallu que je me remette un peu de mes problèmes de santé pendant 2 ans, et après, j'ai repris des recherches, donc, sur les radars, mais orientées sur les effets des micro-ondes sur la santé. Et là, j'ai fait pas mal de découvertes, en ce sens que le terme psychotronique commençait à apparaître, c'est-à-dire le terme de guerre psychotronique, où les Russes et les Américains faisaient des recherches pour interférer sur les métabolismes vivants, ou interférer sur les cortex cérébraux, faire de la manipulation du comportement, ni plus ni moins. Et ces aspects-là ont commencé très tôt, puisqu'il y avait les recherches de Kolodov, de Leonid Vassiliev, qui étaient des chercheurs russes. Ils avaient une centaine de centres de recherche, au moins, de référencés. Et déjà, en 1943, il y avait une étude de fait aux États-Unis suite à des problèmes de suicide qui arrivaient en nombre chez les techniciens radars, enfin des problèmes de santé divers, cataracte de l'œil, également tous ces aspects-là. Et cette opération-là a été classifiée, c'était donc Murphy Camp Operation en 1943, classifiée secret 1944. Donc ça date pas d'hier. Ensuite, il y a eu des recherches à la clinique de Mayo sur des chiens qui ont été faits en les exposant à des micro-ondes.
Ça, la Mayo clinique, c'est le domaine de François Plantet qui a été...
C'est reçu comme résident là.
Il faut que vous parliez dans le micro, François.
J'ai accepté comme résident en chirurgie, mais je ne suis pas resté. Je préfère aller à Houston.
Alors... Donc, ces expériences à la Mayo Clinic se sont déroulées en quelle année ?
Alors, dès 1950, déjà pour vérifier effectivement s'il pouvait y avoir des cataractes provoquées par les micro-ondes. Et il y a Rossadet qui a fait ensuite un programme de recherche. Alors, Rossadet, c'est pas rigolo, puisque c'est un ancien scientifique de la NASA qui a été en plus consultant auprès de la Maison Blanche à l'époque, notamment à l'époque du signal de Moscou qui irradiait l'ambassade, la fameuse ambassade des États-Unis, où là, le personnel diplomatique a eu des problèmes de santé.
Vous dites irradié, mais c'était pas
avec
c'était
des micro-ondes.
Pas un signal nucléaire, enfin c'était pas de l'énergie
radioactive. C'était des micro-ondes radio, mais on s'est aperçu, justement, c'est les problèmes de modification du sang au niveau de la chimie du sang qui ont donné l'alerte, et on a découvert qu'ils faisaient de l'espionnage par des dispositifs qui avaient été installés dans l'ambassade des États-Unis finalement, et ces dispositifs entraient en résonance quand ils étaient irradiés par ces faisceaux micro-ondes.
Donc on peut dire que les premiers qui ont mis au point des ondes, des armes de cette nature sont les Soviétiques ou sont les Américains, ou ils l'ont fait ensemble
On peut dire qu'ils l'ont fait ensemble, et d'ailleurs les problèmes, je me demande si l'expérimentation Philadelphia Experiment,
la fameuse
voilà, si c'est pas plus précisément, parce que bon, ça a été romancé, il y a eu un film de fait là-dessus.
On a parlé de voyage dans le temps. Voyage dans le temps qui aurait été provoqué par une expérience d'invisibilité.
Voilà. Mais si on part du principe que les premiers radars fonctionnaient sur les mêmes fréquences que certains appareils domestiques qu'on a actuellement dans nos cuisines, je crois qu'on a compris pourquoi on a changé les fréquences.
Oui, bien sûr.
Et pourquoi, justement, à l'époque, cette opération, Murphy Camp opération, a été déclenchée.
Parce que ça devrait quand même donner à réfléchir aux gens qui persistent à avoir des fours micro-ondes dans leur cuisine. Parce que...
Alors, il y a eu une étude de fait qui a été censurée et le gouvernement suisse a été condamné à l'époque pour la violation de l'article, ça doit être l'article 10 sur l'entrave à la liberté de communiquer. Parce qu'effectivement, ils ont des problèmes... Bon, ça a un rapport aussi avec la stérilisation des aliments, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les aliments frais, notamment les légumes, quand on les cuit au four à micro-ondes, peuvent faire apparaître des radicaux libres. Alors, les radicaux libres sont cancérigènes.
Alors, puisque vous abordez cette question, je me tourne vers le docteur Plantet. La question qu'on se pose tout de suite en lisant le livre de Marc Wilterman, c'est la question des fondements scientifiques. Est-ce qu'il est sérieux de prétendre ou de croire que on peut fabriquer des armes avec des ondes radio, parce que c'est à ça que ça revient, avec du magnétisme?
Je pense même que c'est très facile. C'est des systèmes extrêmement faciles qu'on doit pouvoir fabriquer en allant à Monoprix chez le droguiste du coin avec une pile Vonder, enfin, comme faisait Nikola Tesla. L'appareil avec lequel il a failli faire exploser le Brooklyn Bridge, c'était trois fois rien, ça avait la taille d'un réveil, il y avait trois fois rien dedans. Hein. C'est toujours les mêmes choses, c'est des bobines de cuivre en général. On fait tourner quelque chose, que ce soit des électrons ou de l'éther. Mais les bases scientifiques, elles sont à la fois parfaitement établies et extrêmement mal connues. C'est des sujets qui sont, pour diverses raisons... l'étude a commencé à peu près avec Gilbert, hein, un curé de campagne anglais en 1600... Il s'est prolongé avec Otto von Guericke et son globe de soufre. Hein. Puis, ça arrive à Galvani, qui a été le premier à parler d'électricité, et ça a déclenché une vague de répression scientifique extraordinaire. C'est un cas d'école, parce que c'était extrêmement mal vu, pour des raisons tenant à l'ambiance athée maçonnique, qui est des forces vitales. C'est extrêmement mal vu. Il y avait le vitalisme, qui était
théorie. C'est-à-dire que, pardon de vous couper, mais vous voulez dire que l'establishment s'est dressé contre les travaux de Galvani parce que ça allait dans le sens de l'existence de la validité du vitalisme.
Oui, c'est-à-dire que le tout étant plus grand que l'ensemble des parties, on savait bien que tout l'ensemble du système ne pouvait pas fonctionner sans un principe unificateur, hein, qui était ce qui s'appelait depuis tout le temps, depuis Hippocrate, enfin depuis la nuit des temps, hein, qu'on trouve dans les idéogrammes sumériens, comme la force vitale.
C'est hein, le vril, c'est
oui, c'est ça, le vril. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans la théodicée de la Kabbale, hein, sur les canaux des Séphiroth, etc. Quelque chose qui flue et qui, effectivement... Bon,
dont on ne connaît pas la nature.
On ne connaît pas la nature, on sait qu'elle existe. Hein, elle est dans tous les hiéroglyphes. Hein, ça, c'est une expérience immédiate. Hein, il suffit de voir une plaie cicatrisée hein, pour toucher du doigt qu'il se passe quelque chose. Mmh. Ensuite, la démarche scientifique, la première, c'est... Encore un hasard incroyable. Il y avait dans le laboratoire de Galvani, il y avait une sphère de Otto de Guericke, qui est une sphère de sulfure de soufre solide qui tourne et qui émet des charges statiques importantes. Et au moment où ça fonctionnait, il y avait un scalpel qui était planté dans une cuisse de grenouille. C'est pas fait pour être mangé, mais pour quelques menues études, quoi. Et chaque fois que il s'est aperçu que ça se contractait.
Que le muscle se contractait. Ouais. En réalité, le scalpel jouait un rôle d'antenne.
C'était une antenne. Il y avait la machine qui était à 3 mètres. Et chaque fois, il y avait une décharge dans l'air. Hein, c'est la base de... Hein, ça fait bouger les terres. C'est la base de la communication.
Donc, ça tendrait à accréditer la fameuse idée du transport d'énergie sans...
Non, mais ça, c'est évident.
Sans support.
Bien sûr. De toute façon, le télégramme, c'est comme ça. Hein, c'est des mouvements dans les terres qui se transmettent comme l'eau quand on jette une pierre. Hein. Donc,
Et alors vous m'expliquez hors micro que contre Galvani on a suscité en quelque sorte.
Mais oui, parce que Galvani a approfondi les choses. Il s'est aperçu qu'on pouvait déclencher les contractions sans électricité, mais avec des fils de métal différents et soudés. Et à ce moment-là, Volta s'est précipité dessus. Il a servi qu'à ça d'ailleurs, comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est précipité dessus pour montrer qu'en fait, il s'agissait d'une énergie purement biochimique et non pas d'un courant électrique à cause de la présence du fer. Ensuite, Galvani a montré que on pouvait avoir des courants électriques simplement avec des courants de lésion, c'est-à-dire sans absolument pas de métal. Mais ça allait tellement à l'encontre des idées de la Royal Society, qui n'était pas très ancienne, hein, ou qui avait supporté les travaux de Newton, et puis l'Académie du Lynx, là, qui était très ancienne en Italie. Et donc, à partir de là, il y a un mouvement très important pour lutter contre le développement d'une énergie vitale. Et ça aboutit, il faudrait peut-être détailler, mais c'est un peu trop long, mais lorsqu'on a découvert en Allemagne, parce que l'Allemagne joue un rôle clé là-dedans, dans l'extinction, sous des pseudo-progrès, elle joue un rôle clé dans l'extinction de la véritable compréhension des phénomènes vivants. Hein. En Allemagne, on a commencé par dire, puisqu'il n'y a pas d'énergie vitale, les systèmes sont mécaniques, donc on va connaître les composants, les couper en morceaux. Et à partir de là, on n'a plus rien compris à rien, parce que ne tenant plus le principe directeur général de l'ensemble, on est arrivé à la médecine actuelle, par exemple. Dans le domaine de la médecine, on comprend plus rien à rien. Puis parallèlement, il n'y a rien. Quoi, hein. On fait, dès qu'on a quelque chose qui sort
de la vie, c'est dit par un médecin.
On fait le tour de tous les spécialistes, dans un sens, puis dans l'autre, et puis en haut, et en bas. Bon. Et en fait, les neurophysiologistes hein, savaient bien, une bonne partie savait bien que la transmission électrochimique des neurotransmetteurs, ça explique rien. Ça ne donne pas l'explication de 5% des phénomènes. Alors, par exemple, on ignore totalement comment agissent les antidépresseurs. Hein, c'est un exemple entre autres. Hein. Et parallèlement, des recherches se poursuivaient sur les courants continus, qui étaient justement ce que détestaient les autres, parce que les courants continus, c'est inexplicable. Hein. On n'en sait pas plus maintenant que du temps de Galvani. Tout ce qu'on sait, c'est que le corps humain ou les corps animaux sont des corps polarisés, avec un pôle positif, un pôle négatif, avec plusieurs centres.
Et alors là, vous avez des aspects de cette réalité qui sont assez stupéfiants. Enfin,
c'est assez grandiose. Alors déjà, on sait qu'en là, ça va directement à l'appui de ce qui est rapporté dans votre ouvrage, monsieur. C'est-à-dire que quand on modifie les courants continus par des dispositifs simples, hein, ça peut être un four à micro-ondes, mais ça peut être un sèche-cheveux qui dégage un champ magnétique invraisemblable. Hein. Ça peut être, là je disais d'un livre qui est relativement ancien, mais qui est toujours valable, de Baker et Marino, hein, qui sont pas des petites pointures. Hein, c'est deux professeurs, il y en a un, il est à Upstate Medical Center de l'Université de New York, et l'autre, il est à la Louisiana State University. Ils ont montré que lorsqu'on soumet le système nerveux à un Motorola, par exemple, avec le son est pas très fort, mais l'antenne est juste à côté de l'oreille. Et à ce moment-là, le contact est colossal. Hein, et les modifications sont énormes. Bien qu'elles aient été niées tout le temps, avec des oppositions farouches des industriels, ça commençait on le sait depuis l'époque d'Edison que ça fait quelque chose. Hein. À l'époque d'Edison, alors c'est des expérimentations naïves, comme c'est souvent là. C'est un peu comme pour le cholestérol. Ils vous disent n'importe quoi. Ils ont mis des chiens dans un champ électrique en disant le chien ne se plaint de rien.
Oui.
Ce qui est quand même assez fort.
C'est comme les chiens qui rentrent dans les endroits, pourtant il y a une entrée, il y a une pancarte,
oui,
marque interdit aux chiens.
On se demande comment les aliments.
On dirait qu'ils savent pas lire.
Voilà. Alors le chien se plaint de rien. Et après ils l'ont fait sur des hommes qui n'ont plus se plaint de rien. Mais au même moment, le professeur d'Arsonval, qui est quand même un nom connu en France, qui a été un de ceux qui ont développé le plus ces choses-là, montrer que l'effet on-off d'un champ électromagnétique crée un phosphène qui est maintenant
totalement connu. Un choc lumineux.
Une impression lumineuse à l'intérieur du cerveau. Après, c'est Beer, dans les années vers 1930, qui l'a confirmé. Et maintenant, on le sait parfaitement.
Et alors, vous avez dans ce livre que vous avez devant vous, quelque chose qui va à la fois complètement dans le sens de ce que Mark Filterman a écrit, et complètement dans l'autre sens, puisque là, c'est pas l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour
détruire,
pour tuer, c'est pour fabriquer. Oui. Alors, je voudrais que vous racontiez, ça c'est quand même stupéfiant.
C'est effectivement parce que ça répare que ça peut détruire. Hein. Ces deux chirurgiens ont étudié les phénomènes de régénération. Ils sont partis sur des bases pas du tout poussées par une vision ésotérico-occultiste des choses. C'était des scientifiques purs et durs, bien qu'ils se soient marginalisés à cause de cette affaire-là. Et ils ont étudié des phénomènes de régénération qui étaient connus quand même depuis assez longtemps. C'est-à-dire que quand on coupe un petit verre de machin, on coupe en 5 morceaux, il y a 5 verres qui apparaissent. Chez les salamandres, la même chose. On coupe une patte, il y a la patte qui réapparaît. Par contre, on coupe la patte d'une grenouille, ça ne repousse pas. Et les gens se sont demandé pourquoi. Il y a une série d'expérimentateurs qui se sont aperçus que les potentiels électriques qui existaient chez les animaux qui régénèrent et ceux qui ne régénèrent pas sont très différents.
Alors là, attendez, François, si vous permettez, je voudrais appeler l'attention des auditeurs, parce que ce que vous allez dire, c'est ahurissant.
Oui, c'est assez ahurissant, il faut le dire.
Les animaux qui régénèrent, comme la salamandre ou le lézard, voilà, dont la queue repousse,
voilà,
etc.,
voilà,
ont un potentiel électrique
particulier,
qui est différent de celui des animaux qui ne régénèrent pas.
Quand on ampute une de ces bêtes, sur le moyen d'amputation, on a un courant de lésion qui se négative un peu, c'est-à-dire qu'il devient moins positif, il remonte et il s'arrête. Quand c'est une salamandre ou toute autre bestiole de ce genre-là, on voit le courant baisser, remonter et devenir très négatif. Et c'est à partir de là que ça déclenche la différenciation de cellules en blastomères, c'est-à-dire des cellules de base, et que l'animal commence à régénérer. Donc,
c'est-à-dire que les os repoussent, les nerfs repoussent, la chair repousse, la peau repousse.
Voilà, il y a des centres adducteurs.
En suivant le modèle initial.
Exactement.
C'est-à-dire que les griffes vont réapparaître au bout de la patte.
Les griffes vont réapparaître là où elles devaient être. Les neurones vont aller réoccuper la musculature. Tout va se coder.
Mais ça, on le sait depuis toujours.
Oui, ça fait partie de la science qui s'appelle la plasticité du système nerveux. On le sait pour les hamsters dorés, quand vous coupez un œil, vous tournez 180 degrés, tout le système des neurones tourne de 180 degrés, ils vont là, ils doivent aller. Ce qui est assez fort pour interpréter à travers les théories de l'évolution, par exemple.
Je vais apporter une petite précision. Il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a un pansement qui a été mis sur le marché qui génère une polarité, pour accélérer la cicatrisation.
Ah oui.
Parce qu'au niveau des tumeurs, par exemple, que ce soit des tumeurs cancéreuses ou des blessures, on a une polarité qui est plutôt négative.
D'accord.
Oui,
alors
exact,
donc, mais les autres animaux qui ne sont ni la salamandre ni le ver de terre n'ont pas ça.
Potentiel.
Non.
Donc l'idée des chercheurs, et avant même Baker et Marino, d'autres ont déjà eu cette idée. Alors le premier, c'était des chercheurs, un texan, un autre à Yale, un autre à Northwestern à Chicago, et il y en a un qui a commencé par titiller avec des épingles, un autre à tremper dans du sel. Tout ça, c'était fait dans leur idée pour empêcher la cicatrisation, mais en fait, ça a entraîné des polarités électriques qui ont fini par faire repousser partiellement des membres. Mais alors, l'expérience grandiose, c'est celle de Decker et Camerino qui ont reconstitué un petit appareil électrique hyper simple. C'est hyper simple, il n'y a même pas d'électricité. C'est une pile faite par 2 bouts de fil différents, du cuivre et du nickel, un truc comme ça. Et ils ont réussi à faire repousser tout le membre de la souris, y compris l'articulation du coude, qui est quand même une articulation d'une complexité hallucinante. Quoi. Et cette expérience est corroborée par d'autres un peu antérieurs, et puis par d'autres que j'ai pas suivis depuis, parce qu'ils ont publié encore. Et c'est extraordinairement impressionnant, parce qu'on se dit que on peut même imaginer que chez des enfants, par exemple, qui n'ont pas de cerveau, on puisse relancer les centres, parce que les forces de guérison de l'organisme sont fantastiques seulement. Elles sont verrouillées, elles sont en puissance, et là, l'électricité les envoie en acte. Chez le ver de terre, par exemple, on peut inverser la polarité, c'est-à-dire que la tête repousse quand il fait quatre morceaux à l'endroit de la tête. Mais si vous changez la polarité, quand vous augmentez le courant, d'abord vous avez un ver à deux têtes, et puis vous montez un peu plus, et vous avez un ver qui a la tête à l'envers.
C'est incroyable.
Donc avec des manipulations modestes, et qui montrent la perfection absolue des structures qui forment le squelette électromagnétique de l'être humain. Donc c'est ce qu'on revoit.
Donc en fond, quand un amputé dit... Quand on parle du membre fantôme...
Bah, c'est évident.
C'est une réalité.
C'est évident. Hein, il garde le blueprint, hein, la pattern, hein, la forme, virtuelle du monde. C'est sur cette forme que se reconstruisent, mais comme dans le hamster doré, par exemple. Ça, c'est Marx en Australie qui l'avait montré avec un élève japonais. Et les neurones sont capables de reconnaître, se reconnaître dans le système nerveux, de savoir où ils doivent aller, et ils suivent des lignes de force. Ça, c'est comme les inducteurs dans les œufs, dans l'ovule fécondé, c'est hallucinant. Hein, vous découpez un petit morceau, vous tournez de 180 degrés, tout le dispositif tourne instantanément. C'est hallucinant, le truc. Hein. Bon, c'est des choses qui sont très mal connues, parce qu'il y a de la littérature depuis longtemps, quand même.
Là, on est quand même au cœur de quelque chose qui dépasse le sujet de ce soir, c'est-à-dire qu'il l'intègre
complètement,
Justement, on constate deux choses. D'une part, les travaux que vous venez d'évoquer, ils ont été complètement bloqués. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que ça a été fait.
C'est 1983 et apparemment depuis Decker et Marino, ils ont un site internet. Il a publié un autre livre qui s'appelle The Electric Man, mais visiblement il s'est marginalisé.
D'ailleurs, enfin, on n'a pas entendu dire que dans un hôpital quelconque, il y a eu une expérience pour faire repousser un doigt.
Lui, quand il était au centre Upstate Medical Center, ils ont étudié parce que ça a quand même été utilisé, ça, la cicatrisation électrique et la mise sur des fixateurs externes, par exemple. En orthopédie, moi je l'ai vu faire quand j'étais externe dans un service de chirurgie osseuse, mais c'était du bricolage, hein. c'était mal vu parce qu'il y a un relent de vitalisme et tout, donc de même pour les trucs sur le cancer, tout le monde sait bien qu'en changeant la fréquence des champs magnétiques, vous arrêtez les tumeurs, soit au contraire vous les relancez, hein. Ça, il y a eu des articles depuis 20 ans dans Science.
Et ça c'est pratiquement occulté, et en revanche, alors il y a l'aspect que traite Mark Filterman, c'est que cette science, cette connaissance, ou ce domaine de la recherche, il est alors utilisé pour, s'il n'est pas utilisé pour guérir, il est largement utilisé pour tuer et pour
blesser. À des fins militaires. Alors justement, en 93, c'était le 17 novembre 93, il y a eu une conférence à Los Alamos avec George Baker, également qui est un spécialiste de ce domaine-là, qui a fait une déclaration comme quoi les armes électromagnétiques avaient été utilisées, notamment sur la base de Greenham, contre des activistes. C'était à l'époque des missiles Pershing, si je me trompe pas, vers 80-84. Et ils ont irradié les personnes, en quelque sorte, pour les faire dégager du site, et ça a marché. Au bout de quelques jours, ils ont dégagé du site. Alors après, le ministère britannique a effectivement reconnu qu'ils avaient irradié à un certain niveau, suffisamment élevé, pour provoquer des saignements, des maux de tête, des troubles de la vue, défaut de locution, paralysie temporaire, enfin voilà, tout le topo. Et là, l'année dernière, le Pentagone a fait la déclaration, notamment parce que l'US Navy a fait beaucoup de recherches là-dessus, ce qui était normal si on effectivement se réfère à Philadelphia Experiment, où ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de mettre en production des armes micro-ondes antipersonnelles. Alors il y a certaines catégories d'armes qui existent, et moi je vois très mal l'avenir de nos experts qui disent que les GSM, que les micro-ondes, UMTS et tout le reste n'aura aucun effet sur la santé, parce qu'ils vont devenir les futurs Garetta du sang contaminé, parce que je sais pas comment ils vont faire pour se défendre avec les futures études qui vont arriver et les futures révélations de l'armée. Je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir.
Déjà, on peut dire qu'il y a de très nombreuses études étudiant simplement la répartition des leucémies et des suicides par rapport aux lignes électriques. Il y en a une qui a été faite dans le Middlesex il y a assez longtemps déjà, et qui, avec des groupes de contrôle très bien choisis, et qui montre au-delà de toute contestation possible, qui a un coefficient statistique, hein, le coefficient de personnes, qui est clair comme tout. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de leucémie C'était quelque chose qui a été fait par UCLA en Californie. Le long des lignes en tension, plus on s'éloigne, moins il y a de leucémie. Hein. C'est la même chose pour les radars dans l'armée. D'ailleurs, c'est une maladie professionnelle dans l'armée. Hein. C'est reconnu, c'est indemnisé comme tel. Hein.
Bien, ben je vous remercie d'avoir pris la peine de venir nous expliquer ça. Docteur, vous avez lu très attentivement le livre de Marc Fuchsman, Les Armes de l'Ombre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est d'un très grand intérêt. Il y a des points de détail sur lesquels j'émettrai quelques réserves. Par exemple, c'est très facile de rentrer dans un cerveau. Hein. De toute façon, vous êtes à côté d'une machine électrostatique, vous vous sentez mal. Hein. C'est évident. Hein. De même, on utilise facilement, facilement. Il y a plusieurs publications qui traitent les dépressions nerveuses en envoyant des décharges électromagnétiques dans le cerveau, des décharges intelligentes, hein, comme les sismothérapies, hein, qui sont un traitement remarquable. Hein. Mais par contre, il est donc très facile d'arroser une population avec une technologie qui est hyper simple. Hein. Fabriquer des champs électriques, c'est pas dur. Hein. Et ça change tout de suite les polarités de ces courants continus. C'est-à-dire qu'on est capable d'arrêter instantanément l'activité régulatrice générale sur l'humeur, etc. Donc si on l'arrête, et ben les gens deviennent tristes, angoissés. Les auteurs russes et japonais ont notamment montré, dans une russe très compétente qui a montré qu'il y avait 3 degrés de réponse dans la gravité qui finissait par arriver à des catastrophes hypothalamiques, c'est-à-dire le chef d'orchestre des glandes. Mm-hmm. Par contre, s'introduire chez un seul individu, ça me paraît hors de portée parce que quand même si c'est des études secrètes, elles partent de bases qui sont pas secrètes. Après, on peut développer ce qu'on veut et c'est assez facile. Si c'était le cas, c'est-à-dire si on arrivait avec un rayonnement électromagnétique à diriger un influx sur une personne précise, etc. Là, je crois qu'on passerait dans un domaine plus ésotérique. Oui, les orglomes avec la sorglombe.
Qui peut être amplifié quand même par des moyens électromagnétiques, parce qu'ils ont fait des recherches au Stanford Research Institute, le laboratoire des sciences cognitives, et ils avaient recruté d'ailleurs des médiums. Et ces médiums-là, ils ont cherché également des moyens électroniques pour amplifier leurs possibilités.
Là, on sort du domaine.
J'ai récupéré un millier, j'ai ici un listing, il y a sur ce listing un millier de dispositifs, un millier de références, de dispositifs qui permettent d'interférer sur les métabolismes biologiques vivants. Et attention, il faut, parce qu'il y a un parlementaire l'autre fois à une conférence au Sénat qui me dit, oui mais monsieur, vous devez savoir que quand on est irradié, quand les militaires sont irradiés, c'est à fort niveau. Alors comme il a eu le malheur de me dire qu'il était en plus physicien, je lui ai dit, attendez, vous devriez savoir, puisque vous êtes physicien, qu'il y a non seulement un effet de résonance en fréquence, mais aussi en amplitude. C'est-à-dire que même on s'est rendu compte, et ça c'est l'université de Lund qui l'a découvert également, que plus on abaissait le niveau du champ électromagnétique, plus les effets de résonance pouvaient s'amplifier. Et pas forcément. Par exemple, il y a des fréquences, à des fréquences de 20 Hz, ça va être telle puissance qui va fonctionner pour telle fréquence, la fréquence de 20 Hz, et à un autre endroit, dans un autre labo, ce sera une autre fréquence qui sera par exemple 30 Hz. C'est-à-dire que les expérimentations ne sont pas reproductibles à 100% parce qu'il y a un facteur qui n'est pas pris en compte par nos experts et nos laboratoires, c'est le facteur de résonance cyclotronique qui repose justement sur le champ géomagnétique terrestre, parce que le champ géomagnétique terrestre est différent à tous les endroits.
Ce qui fait qu'on ne peut pas reproduire... Il y a cette expérience que vous évoquiez des deux chambres, la chambre blindée et la chambre non blindée. Et quand dans une chambre blindée...
Ça, c'est Weber, c'est du Max Planck, qui montre comment ces champs électromagnétiques contrôlent, harmonisent les fonctions humaines. Hein, c'est-à-dire que l'homme, il se couche, il se lève, on sait que ça, c'est des cycles unisolaires. Il y a les règles de la femme qui sont branchées sur le cycle lunaire. Et la question, c'est de savoir comment ces donneurs de temps, on appelle ça Zeitgeber dans les sciences ou les biological clocks, comment ça marche. Visiblement, ça marche par des signaux extrêmement ténus qui sont difficiles à mettre en évidence, qui ont un côté un peu ésotérique. Parce que autant on peut voir changer la vitesse du vent ou la pression d'oxyde de carbone dans l'air, autant saisir des variations de quelques millièmes de Gauss et de phénomènes, c'est très très subtil. Donc les expérimentations doivent être sophistiquées. Donc cet Allemand, Rutger Werber, il a construit à l'Institut Max Planck 2 chambres, et avec des constantes de temps de lumière, etc. dont l'une était simplement isolée et l'autre était blindée contre les interférences des courants continus. Donc dans les deux cas, on voyait s'établir un rythme circadien pour les gens qui étaient non blindés, c'est-à-dire que ça tournait sur 24 heures avec des déviations modestes. Pour les autres, ils se mettaient en free running, en libre cours, et à partir de là, les fonctions se désynchronisaient de plus en plus, c'est-à-dire que ça, vous pouvez le suivre sur des courbes informatiques, vous avez la température, le pouls, la pression, la sécrétion de cortisol, etc. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus rien qui tenait, tout était en morceaux. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont introduit dans la machine un générateur de champ magnétique qui pulsait à 10 Hz, qui est une 10 X par seconde, qui est une constante universelle. C'est la constante de pulsation du champ terrestre dans le résonateur qui est constitué entre le sol de la Terre et l'ionosphère. Il y a des éclairs qui bondissent d'un côté à l'autre avec une variation de 10 Hz, en prenant pour base la longueur d'onde de la Terre qui est de 1 Hz. Et à ce moment-là, on voit se rétablir les cycles à toute vitesse. C'est-à-dire que c'est la base, parce que l'appareil lui-même, il est très simple. Fabriquer des champs électromagnétiques, c'est la portée n'importe qui.
C'est-à-dire que dans cette pièce blindée, dans laquelle le magnétisme ne circule plus du tout, parce que
il rentre plus.
Il rentre pas. Un homme qui est là-dedans se déglingue complètement en peu de temps.
On lui met,
et si on met une pile avec...
avec une petite, un petit bidouillage, ça remet les cycles en route. C'est équivalent aux huîtres là, dont on avait parlé.
On en aurait pour toute la nuit si on commence à évoquer tous ces sujets. Je vous remercie, François Planté, d'être venu nous servir d'expert, en quelque sorte. Merci, Marc Filterman, d'avoir fait ce bouquin qui est passionnant. Ça s'appelle « Les armes de l'ombre ». Les armes de l'ombre. Le sous-titre, c'est « Des tempêtes pas naturelles », parce qu'il est aussi question
de la guerre climatique
que Brzezinski avait annoncé en disant « Nous avons les moyens de déclencher des tempêtes partout dans le monde ». Il avait déclaré ça dans les années 70. Et on sait ce qui s'est passé il y a peu de temps en France et en Europe. Donc ce livre est paru aux éditions Carnot. Les éditions Carnot, elles commencent à être bien connues parce qu'elles ont fait quelques bouquins qui font du bruit. Mais j'en donne quand même l'adresse. C'est 10 quai Jean Mermoz. Disque Jean Mermoz, 78 400 à Chatou. Et puis, on peut joindre l'auteur sur son
site internet.
Son site internet qui est Filterman, F-I-L-T-E-R-M-A-N, @, si vous préférez, multimania.com. Ça, c'est votre adresse.
Alors attendez, parce que là, apparemment, on a des problèmes de censure. Déjà, le livre, on a beaucoup de difficultés à le trouver. J'ai eu énormément de plaintes. Et même mon adresse...
C'est pour ça qu'il faut s'adresser à l'éditeur.
Mon adresse mail ne fonctionne plus, donc j'ai été obligé d'en prendre une autre, qui est Marc Filterman, le tout attaché, en un mot, @hotmail.com. Alors, Hotmail, H-O-T-M-I-L. Et autrement, j'ai un site internet qui est www.multimania.com/Filterman, où là, on peut voir un certain nombre de révélations assez compromettantes, y compris dans la génétique.
Merci beaucoup, Marc Filterman. Les armes de l'ombre, édition Carnot. Merci, docteur. Et encore susciter la passion des auditeurs. Ils veulent tous connaître votre adresse. On ne peut pas donner l'adresse d'un médecin à l'antenne. C'est interdit.
Il faut dire qu'ils sont passionnants. Absolument passionnants.
Alors, Bernard Planchot, vous permettez qu'on donne la parole à ces jeunes gens rapidement pour qu'ils nous expliquent ce que c'est que cette université d'été de Renaissance catholique. Moi, je le sais bien, mais je voudrais que Michel de Gégère l'explique aux auditeurs et ensuite que Cécile nous dise pourquoi elle y va.
Eh bien, nous organisons cette année, donc du 14 au 17 juillet à Villepreux, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Paris, à côté de Versailles, dans un très beau château qui nous accueille notre 11e université d'été, dont le thème est le plus grand lavage de cerveau de tous les temps. Alors on peut penser qu'avec ce titre, nous sommes inspirés d'événements récents. En fait, ce titre avait été choisi avant. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que Renaissance catholique est un mouvement catholique traditionnel qui tente d'œuvrer à la restauration de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, et que dans ce cadre, eh bien, nos universités d'été, que nous organisons depuis 1992 chaque été, visent à essayer d'entretenir l'amour l'amour de la vérité chez les gens qui nous font l'amitié de nous rejoindre. Et donc, au cours de ces 11 années, nous avons abordé toutes sortes de thèmes à propos desquels des légendes noires avaient été diffusées, à propos desquelles la désinformation régnait. Nous avons fait des universités sur la colonisation, l'évangélisation du Nouveau Monde, sur les croisades, sur le baptême de la France, sur l'islam, sur la repentance, sur la déchristianisation de l'Occident, avec chaque fois la volonté d'essayer de rétablir une vérité qui avait été défigurée par la pensée dominante. Et puis au bout de ces 11 ans, nous sommes dit qu'au fond, dans ces universités d'été, nous attaquions aux effets, qu'il était peut-être temps de s'attaquer aux causes. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder chaque année un thème qui avait fait l'objet d'une désinformation, il fallait peut-être d'abord, en tout cas aujourd'hui, essayer de former les intelligences au discernement, essayer de faire en sorte que les gens qui, encore une fois, nous font l'amitié d'essayer de bénéficier de la formation que nous tentons de diffuser, eh bien, aient eux-mêmes, peu à peu, les moyens de voir le mensonge, de traquer le mensonge, de rejeter le mensonge et pratiquer l'amour de la vérité. Et donc, nous avons voulu consacrer une université d'été à démonter un peu les méthodes, les techniques de la désinformation pour essayer d'apprendre, de nous entraîner à la détection mensonge médiatique. Et dès qu'on réfléchit un petit peu à ce sujet, eh bien, on se trouve devant ce paradoxe de notre époque, qui est à la fois une époque de surinformation, parce que je pense qu'en aucune période de l'histoire de l'humanité, eh bien, on a bénéficié d'autant d'informations et en même temps d'extraordinaires désinformations, comme si la surinformation engendrait en elle-même la désinformation. Et on se trouve confronté à une évidence, c'est que jamais, peut-être dans l'histoire, eh bien, un peuple comme le nôtre n'aura fait l'objet d'un lavage de cerveau comparable à celui dont nous sommes aujourd'hui, que nous le voulions ou non, les victimes. Je crois qu'aucun régime totalitaire n'a bénéficié, même si les régimes totalitaires du XXe siècle, que ce soit le nazisme ou le communisme, ont évidemment essayé de laver les cerveaux, de modeler les intelligences, de désinformer, de pratiquer le mensonge d'État, etc. Mais ils n'ont jamais eu les moyens extraordinaires qui sont à la portée aujourd'hui des gouvernants, des groupes dirigeants, des grands groupes industriels, ne serait-ce que par le fait technique de cette société médiatique, le fait que tous les soirs le rendez-vous du journal télévisé fait que la désinformation rentre dans toutes les familles, dans toutes les salles à manger, etc. Je pense qu'à aucune époque de l'histoire on a connu un phénomène pareil, que aucune puissance, aucun État, aucun gouvernement n'a jamais bénéficié des moyens d'influer sur les esprits, sur les intelligences comme aujourd'hui. D'où ce titre qui nous paraissait un petit peu provocateur, le plus grand lavage de cerveau de tous les temps. Et puis finalement, eh bien, le mois dernier, je dirais que pour les plus sceptiques, le spectacle que nous a donné la France politique pendant l'entre-deux-tours nous a montré qu'on était encore en dessous de la vérité, qu'il n'y avait pas de risque d'exagérer. Vous disiez il y a un instant que les armes de l'ombre visaient à nous transformer leurs victimes en orglomes. Je crois qu'il y a pour cet objectif-là, il n'y a même pas besoin d'armes de l'ombre. C'est que déjà le système médiatique vise déjà à nous transformer en orglomes. Et comment à nous transformer en orglomes ? Eh bien, en nous faisant perdre de vue au fond, parce que le fond du fond des choses, c'est ça. Eh bien, le discernement entre le bien et le mal, et en inversant les pôles, puisqu'on est avec l'idée du bien et du mal, et en nous faisant prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. Donc c'est contre cette espèce d'immense offensive que nous, modestement, nous organisons 4 jours d'études, d'amitié, de travail et puis de détente pour essayer, encore une fois, de permettre aux gens de réagir.
C'est tout près de Paris. Hein.
Alors c'est à côté de Versailles, dans un très beau château. On a un ami qui nous accueille dans un site magnifique à Villepreux. C'est à côté de Saint-Nom-la-Bretèche, donc c'est à 20 km de Paris. Ça nous a permis, parce que l'hébergement est plus facile, il y a une entraide à l'hébergement avec les gens qui habitent en région parisienne, de faire des formules moins chères, ce qui fait que l'université d'été, il y a différentes formules, mais enfin, en gros, tourne autour d'un prix de 650 francs pour ces 4 jours. Et ça nous a permis aussi de faire des formules nouvelles qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes, parce qu'il est évident que sur un thème comme celui-là, le lavage de cerveau, les premières victimes, d'ailleurs on l'a vu, ce sont les jeunes générations. C'est à elles qu'en priorité s'adresse cette université, puisque le but, c'est de leur montrer comment on leur ment et comment on les corrompt par le mensonge.
Alors Cécile, j'imagine que si vous allez à l'université d'été, c'est parce que le sujet vous intéresse, mais je crois aussi qu'il n'y a pas que le sujet qui vous intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune, quelqu'un de très jeune comme vous, je suppose que vous êtes étudiante, parce que je voyais avec quel intérêt vous suiviez la conversation du docteur Plantet, j'ai cru comprendre que vous étiez particulièrement passionnée par ce genre de sujet.
Oui, je suis étudiante en médecine en troisième année.
Vous semblez bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ayant planché pendant toute l'année et en troisième année, on n'a pas beaucoup le temps de s'amuser sur des travaux universitaires, vous avez encore envie d'aller à l'université d'été au moment où vous pourriez vous reposer sur une plage?
Ah bah c'est pas du tout la même ambiance. Déjà là, je pense qu'on a besoin en tant que jeune, surtout entre 18 et 25 ans, de se former, parce que ben justement par les médias, on entend vraiment parler de tout, même rien qu'à la faculté, tout ce qu'ils nous disent, il y a forcément qu'une direction, et après c'est à nous de trouver de tempérer un peu ce qu'ils nous disent. Donc c'est très important de se former justement pour arriver à avoir à former sa propre idée et à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et mais à côté de ces conférences justement que l'on trouve donc dans l'université, il y a aussi tout un aspect pour être entre jeunes, avec notamment deux après-midi qui sont organisés, un rallye avec des questions, des étapes, des épreuves. Il y a une grande veillée aussi.
Et c'est la partie la plus rigolote, la veillée, on s'amuse bien.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'humour généralement. C'est assez marrant d'ailleurs de voir les adultes donc entre 30 et 50 ans.
Il faut savoir que Radio Courtoisie souvent est présente puisqu'il y a de très bons imitateurs. Et il y a quelque chose qui a eu beaucoup de succès à chaque fois, c'était quand il y avait des imitations d'émissions de Radio Courtoisie, comme beaucoup de participants sont des auditeurs, ils retrouvent certains tics, parce qu'on a tous nos tics, nos manies, nos habitudes, et ça fait vraiment hurler de rire, et les jeunes là font des choses tout à fait remarquables.
Ah oui, c'est très très drôle, surtout quand les sujets sont bons, surtout sur la politique, on a vraiment des bons imitateurs, et la veillée est vraiment un grand moment. Et sinon, il y a toute une après-midi sportive aussi. Donc la fois où j'y étais allée, c'était en 99, on avait fait du bateau, on avait fait du tir à l'arc, c'est important parce que ça, justement, ça permet de montrer qu'il n'y a pas qu'un aspect intellectuel à l'université, il y a aussi le fait de se retrouver, de pouvoir discuter de sujets entre nous. Donc voilà, donc c'est un petit peu un appel.
Les jeunes gens et les jeunes filles que vous rencontrez à l'université, vous arrivez de les revoir dans la vie normale, si ou anormale plus exactement?
Ben oui, parce que c'est un peu le... Ben, ça dépend des groupes d'amis qu'on a, mais oui, généralement c'est les mêmes, donc...
Ça, vous êtes en bande, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Et vous n'avez aucun reproche à faire?
À l'université? Oh non, il faut que je m'y un petit peu, là.
Bon, ben moi j'en trouverai. En général, non, d'ailleurs, c'est très très bien. Ben, j'y serai cette année, voilà.
Moi, voilà, je voudrais simplement dire un mot des conférenciers,
oui.
Parce que effectivement, il y a toute la partie amicale, ludique, sportive, etc., mais il y a tout de même quand même un cycle de conférences. Donc, ce cycle de conférences est orienté autour d'une part des techniques de la désinformation, d'autre part de ses objectifs. Ses objectifs, les auditeurs de Radio Courtoisie évidemment les connaissent, c'est de donner aux gens qui en sont les victimes la haine de l'identité française, de l'identité catholique et l'amour du multiculturalisme et du mondialisme. Et donc, nous avons organisé le cycle de conférences autour de ces thèmes, avec des conférences qui sont donc consacrées aux techniques, avec notamment, évidemment, Vladimir Volkov, parce qu'on ne va pas parler de désinformation sans Vladimir Volkov. Donc, une grande conférence inaugurale de Vladimir Volkov, une conférence sur la subversion du langage, comment on désinforme en changeant le sens des mots par Arnaud Guyot-Jeannin, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Et puis, un certain nombre de cas pratique, nous allons essayer de montrer comment précisément comment on défigure l'histoire par la désinformation en analysant les campagnes récentes qui ont eu lieu sur l'armée en Algérie, sur l'action de l'armée en Algérie, la campagne qui a été déclenchée contre Pie XII, et plus généralement l'utilisation des mythes résistentialistes ou du mythe collaborationniste dans la vie politique française, et puis en même temps comment l'actualité elle-même est sans cesse déformée de de façon mensongère, avec notamment une conférence de Serge de Beketch sur la désinformation au service de l'hégémonie américaine et une conférence d'Henri de Lesquin sur l'insécurité et l'immigration, qui sont des thèmes à propos desquels la désinformation règne. Je voudrais dire aussi que nous avons essayé d'améliorer énormément ce qui était un petit peu notre faiblesse, c'est-à-dire la garderie pour les enfants. Nous avons cette année une garderie, je dirais, très retaillée, avec 3 garderies par tranche d'âge, parce que le but, c'est aussi que les familles puissent venir et que les mères de famille puissent venir. Souvent, les mères de famille, pendant l'année scolaire, les mères de famille nombreuses sont absorbées par les tâches que leur imposent leurs enfants. Là, c'est 4 jours où elles ont l'occasion à la fois de se retrouver entre amis et puis d'écouter des conférences intéressantes, de participer à des activités qui les sortent un petit peu de la contrainte familiale. Et donc, nous avons voulu vraiment perfectionner cette garderie avec un tarif très attractif. Je crois que c'est 180 francs par enfant, avec une vraie garderie où ce ne sera pas du gardiennage, c'est-à-dire que où on occupe intelligemment les enfants et on les amuse et on s'occupe bien d'eux. Et puis, dernière innovation de cette année, nous avons essayé, justement parce que nous essayons de nous orienter vers la formation des jeunes, de faire des séances, je dirais, un peu de travaux pratiques en projetant des extraits d'actualités, de journaux télévisés, d'émissions, de reportages, etc. Extraits que nous allons commenter au fur et à mesure et faire commenter par nos invités, parce que le but, c'est d'apprendre à voir, encore une fois, d'apprendre à lire, d'apprendre à écouter, d'apprendre à voir, d'apprendre à discerner le mensonge là où il se trouve.
Merci Michel de Gégère, merci Cécile. Alors, cette université d'été se tiendra du 14 au 17 juillet à Villepreux dans les Yvelines. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à Renaissance Catholique. Le téléphone, c'est 01 46 62 97 04. 01 46 62 97 04. Ou alors, vous avez également un mail auquel vous pouvez écrire. C'est rcatholique, en un seul mot, @wanadoo.fr. Je rappelle, à la demande d'une auditrice exigeante, l'adresse le site de Marc Filterman, c'est /multimania.com/ Filterman, c'est tout. Voilà. Merci.
Merci
Bernard
Pindesseau,
il nous reste Merci. Quelques minutes pour que vous nous disiez, parce qu'on a évoqué tout à l'heure votre cette affaire totalement grotesque du contrôle douanier, mais vous avez fait une lettre ouverte à Chirac, ce qui est unique, pour présenter un catalogue de monnaies et médailles. Envoyer une lettre ouverte à Jacques Chirac, c'est quand même assez inhabituel, et c'est probablement pas uniquement à cause de cette affaire administrative. Qu'est-ce que vous avez voulu lui dire, en fait, dans cette lettre?
Eh bien, en clair, pour un commerçant, c'est tout à fait inhabituel de secouer, disons, au niveau des technocrates qui nous gouvernent. D'autant que dans une clientèle, on a forcément des gens de différentes tendances. Mais à partir du moment où il y a eu cette absurdité complète dont je vous parlais tout à l'heure, du rond de cuir du ministère de la Culture, qui perturbe complètement l'exercice de notre profession actuellement, ça s'inscrit dans un ensemble, parce que beaucoup de métiers, beaucoup de professions subissent la technocratie de Big Brother, si l'on peut le dire. Et en fait, pour moi, ce terme socialocratie, que j'ai peut-être inventé, qu'en tout cas, correspond, si vous voulez, à un quart de siècle, depuis 1974, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de Giscard d'Estaing. Alors donc, j'ai vu monter au fur et à mesure le pouvoir de comment dirais-je, du technocrate, d'une société complètement coupée en deux. D'un côté, des fonctionnaires dont certains sont très bien, mais garantis de l'emploi aux frais des contribuables. De l'autre côté, des citoyens ordinaires. Et de plus en plus de tracasseries administratives. Comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que certains fonctionnaires sont là pour sécréter du papier afin que les services soient complètement noyés. Alors, dans ce contexte, j'ai eu envie d'exprimer à Jacques Chirac, d'une part, que c'était la confiscation du pouvoir à laquelle nous assistions depuis 1974 avec l'État donnera, l'État fera, une augmentation des prélèvements obligatoires absolument démentielle, puisqu'on part sous Giscard d'Estaing par rapport à toutes les richesses créées dans l'année dans le pays qui s'appelle le produit intérieur brut. Par rapport à toutes ces richesses, quand Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, on était à 34,2% de prélèvements obligatoires.
C'est-à-dire que la machine administration
pour tout, les impôts, pour fonctionner, les charges sociales,
bouffait 34% de la production du pays.
À l'époque, on était à peu près à 31% aux États-Unis et autour entre 29 et 30% au Japon. Sous le règne de Valéry Giscard d'Estaing, je l'appelle règne parce que pour moi c'est assez extraordinaire,
c'est la plus
incroyable augmentation des prélèvements qui ait pu exister, puisqu'on est passé de 34,2 en 1974 à 41% à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Alors, il est évident que François Mitterrand, que j'ai bien connu puisque j'étais son poulain, plus jeune membre du comité directeur national du parti à l'âge de 23 ans, quand c'était un parti dans lequel il y avait la tendance Pleven, il y avait Le Garé, il y avait tout ça. Bon. Toujours est-il qu'il arrive, après sa traversée du désert, 1958-1980, enfin il est là, c'est l'état de grâce, on a vu ce que c'était, l'état de grâce, on est passé de 41% à 47%.
47, oui.
Ensuite, petit retour en arrière, Rocard-Chirac, on est revenu à 45. Pour revenir au chiffre record de 47% l'an dernier, avec le fait qu'on a changé entre-temps les bases du produit intérieur brut, c'est-à-dire du calcul des richesses créées dans l'année dans le pays. Et la réalité, on est à 50, autour de 50.
C'est-à-dire à chaque fois qu'on produit un franc,
voilà,
il y a deux francs, il y a un franc qui sert à faire fonctionner l'État.
Voilà. C'est absolument démentiel. Ouais. Alors maintenant, moyennant quoi, je dois dire que je suis choqué, profondément choqué, d'une part par la confiscation du pouvoir qui est faite par deux clans de technocrates associés, si vous voulez,
bien sûr, oui,
avec le fait qu'on voit un petit progrès dans ce qui se passe actuellement, mais l'ensemble a été cela. Et ces technocrates, au fur et à mesure, se renvoyaient la balle, ont confisqué le pouvoir, et finalement, par rapport à ce que représente Radio Courtoisie, quelque part, c'est-à-dire une tendance de droite nationaliste, etc., antidirigiste, on s'aperçoit que le troisième parti de France, qui est celui de M. Le Pen, qu'on le veuille ou pas, le troisième parti de France, je dis, après le RPR, et après le Parti Socialiste, en nombre. Celui-là est interdit de député. Alors, pour moi, qui suis démocrate attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça m'insupporte. Je ne parle pas en tant qu'adhérent d'un parti quelconque. Je veux dire, on n'a pas le droit de passer une entente mafieuse pour faire en sorte d'interdire qu'un courant de pensée qui, cette fois-ci, a représenté 17% pour les élections présidentielles, 11-50% pour les élections suivantes et législatives, dans lequel je voudrais rajouter un élément par rapport à ce qu'a dit M. Le Pen. M. Le Pen a dit qu'on était descendu à 11-50% à cause des abstentions. Car effectivement, les électeurs du Front National, ils en ont assez d'aller poser un bulletin de vote pour être sûr de ne pas avoir de député. Mais il y a une autre raison. C'est que par rapport au socialisme tel qu'on l'a vu, avec les cadeaux des retraites à 60 ans pour faire passer tout de suite après de 140 trimestres à 160 trimestres, c'est-à-dire de 35 ans à 40 ans de travail, et puis ensuite la retraite calculée sur la base des 10 meilleures années qui passent aux 25 meilleures années, c'est se foutre du monde.
Oui.
Bon, alors, les 35 heures de Martine Aubry, c'est évidemment une catastrophe à bien des niveaux, et tout cela, si vous voulez, c'est la même chose. Alors donc, un certain nombre d'électeurs, je pense, que ce soit de M. Le Pen, de M. Maigret, ont décidé de voter pour éviter la cohabitation. Ce qui a fait perdre pas mal de voix au Front National.
Merci Bernard Pandessou. Vous reviendrez nous voir. On fera une émission un peu plus longue avec vous parce que vous avez beaucoup de choses à dire
énormément. De votre point de vue. La plaquette que je vous ai fait passer,
impôts,
mais jusqu'à quand?
On en parlera.
C'est moi qui l'ai écrite avec, nous avions Pierre Descaves que vous connaissez,
oui, bien sûr.
Le président du SNPMI, nous avions l'Union Nationale pour l'Avenir de la Médecine.
On fera une émission très prochainement si vous voulez pour évoquer ces questions. Et ça sera de l'actualité. Je voudrais, avant de donner la parole à Jacqueline pour les annonces, dire une chose, c'est que j'invite les auditeurs à commander le dernier Libre Journal, 4 Place France Litz, 75-010, parce que d'une part, il y a dedans un article tout à fait extraordinaire, je ne crains pas de le dire, de Blanza, sur la façon dont la fin des nations a été programmée et voulue il y a 30 ans, et la démonstration est lumineuse, et d'autre part, vous recevrez la fameuse carte de l'Europe démantelée, qui va dans le même sens, carte qui a été découverte par Pierre Hillard,
Pierre Hilard, qui sera d'ailleurs le 30 juin au stand du Libre Journal. Jacqueline.
Eh bien, écoutez, j'ai quelques secondes ou une minute et demie. Je rappelle le festival de Juliette Mills, les 29 juin et 30 juin. À 20h30, le concert de Youri Boukov, donc le samedi 29 juin. Et puis le dimanche, c'est le concert piano et opéra avec Clara Tsordas et Adrienne Kroos. Ceci pour la modique somme de 13 euros par personne les dimanches, 13 euros le samedi ou 23 euros la réservation des places pour le concert, les deux concerts.
Ça se passe à Béton, il faut aller vite.
À Béton, près de Cézanne. Alors là, vraiment, vous me prenez de coups.
Voilà, mais c'est essentiel de dire ça. Ça se passe à Béton. Allez-y, parce que c'est un spectacle magnifique que Juliette Mills a intitulé Résurrection.
Et Renaissance.
Merci. Je vous rappelle l'adresse du Libre Journal si vous voulez le commander avec la carte de Pierre Hilard. C'est 4 place France Lys 75010 Paris. Vous envoyez 10 timbres courants et ça fera très bien l'affaire. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz. À Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck en deuxième partie. Émission diffusée en direct mercredi 12 juin 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h. Ce Libre Journal a été réalisé.